bas là. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y a 10 places en bas.
Ah non, c'est les miennes, ça, c'est de la chlorophylle.
Bonjour.
Mais elle n'a pas été minimisée.
Un ticket.
Ah, il est éteint.
Bon gosse.
Vous avez encore des places par là. Descendez, s'il vous plaît.
Tu es sans arrêt en mouvement en France, comme ça
Là, ça a été changé. Je reviens de la Réunion. Avec Sandrine de Vavre.
Il y a quelqu'un là?
Il y a quelqu'un là? D'inviter un chef européen.
Une, Sandrine, deux, trois. Quatre places là en bas, s'il vous plaît.
Un peu pastel, mais c'est super beau. Et puis, ensuite, je suis allé en Belgique, mais là, c'était en science. Et puis là, on revient de Lausanne, où il y avait le congrès Gastronomia, que Denis organisait, où il y avait, c'était intéressant, il y avait 3 jours, et il y avait 4.
Regarde là où il y a les visites, regarde le truc.
Il y avait des gens comme Anna Russie, Émile, Denis Martin, Décoré. Alors, il y avait un autre, un Espagnol qui installait Moscou. J'ai oublié son nom, je ne connaissais pas. Et puis, je ne sais pas, tous les moléculaires étaient là et c'était une moléculaire.
Donc nous allons commencer. D'abord, bonjour et bienvenue à tous. Il y a quelques élèves qui s'installent encore, mais il faut absolument que nous commencions parce que nous avons pris du retard et nous avons un timing très très serré pour cette journée d'inauguration du pôle sciences et culture alimentaire. Donc, quelques petites recommandations pour commencer. Bien sûr, merci d'éteindre vos portables, pour ceux qui n'y auraient pas encore pensé. Ceux qui sont assis devant, là, verront qu'ils ont des micros devant eux. Donc, c'est des micros assez fragiles que je vous demanderai de ne pas tripoter. De toute façon, ils sont éteints. On ne les ouvrira qu'au moment du débat. Ensuite, nous sommes 300 dans cet hémicycle. Il y a des lycéens de Rive-Gauche, par là, de Berthelot. Des lycées agricoles, au lycée agricole d'Auzeville, lycée hôtelier René Bonnet et d'Occitanie, et des professeurs stagiaires de l'IUFM, de l'ENFA, et même quelques ingénieurs à l'école de chimie. Donc, tout ça pour vous dire que si vous commencez à chuchoter à 300, on ne va plus s'entendre, ce qui serait extrêmement dommage car nous filmons et nous enregistrons cette séance qui sera diffusée sur Internet, sur Canal U pour les images, et sur le web de France Culture pour le son. On fera passer à vos enseignants les dates de passage. Donc je vais aller très 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 vite pour vous dire que c'est l'Université des lycéens qui inaugure cette journée. C'est une série de rencontres entre des chercheurs, des enseignants et des lycéens pour vous faire découvrir la nature de la science, la trajectoire d'un chercheur. Et il y a toujours un interlocuteur à côté du chercheur qui permet de nouer un dialogue entre deux individus qui n'ont pas forcément les mêmes métiers, mais qui arrivent à éclairer à leur façon une question scientifique ou artistique. Et en l'occurrence, ce sera un chimiste pour le scientifique, Hervé Thys, quelqu'un de très connu pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la chimie et à la cuisine. Il vient d'arriver de Paris. Il est quand même le fondateur, il y a 20 ans, d'une discipline qui s'appelle la gastronomie moléculaire. Et à ses côtés, il y aura Michel Sarran. Pour les élèves du lycée hôtelier, je pense que son nom n'a pas de secret non plus. Un grand chef étoilé toulousain. Donc, comment est-ce que la chimie et la cuisine peuvent se rencontrer? Est-ce qu'elles peuvent dialoguer? C'est ce que nous allons voir ensemble. Mais tout de suite, je vais demander à Bernard Meunier de nous rejoindre pour un tout petit mot de 2 minutes. Bernard Meunier, qui est aussi chimiste et qui va vous dire qu'est-ce qu'on inaugure aujourd'hui avec vous pour commencer la journée.
Bonjour, je suis chimiste, je suis toulousain, je suis membre de l'Académie des sciences, membre du conseil d'administration de la Fondation animé et créé par Hervétis, et j'adore la cuisine. Et je vais vous dire une chose, vous avez ici un chef, un vrai chef, quelqu'un qui est capable de transformer n'importe quel produit de base en quelque chose d'extraordinairement agréable dans une assiette. Et il y a à la fois un savoir-faire extraordinaire et une émotion. Alors je voudrais vous faire partager, moi, un point de vue qui est celui d'un scientifique qui a eu un parcours universitaire à l'étranger, et ainsi de suite. Et il y a une formation scientifique qui a exactement le même parcours que la formation des gens comme Michel Sarran. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Une bonne école. Donc c'est important que vous soyez dans des bons lycées. Et la région Midi-Pyrénées veille à ce que vous soyez dans des bons lycées. Ensuite, des lycées où il y a des bâtiments bien entretenus, en bon état, non salis, non tagués, avec des professeurs de qualité. Les écoles hôtelières font ça. On apprend à être propre et à servir les choses. Et on apprend aussi à faire des choses de ses mains. C'est extrêmement important. Après, on va faire comme les chercheurs des post-docs. Alors, on va à l'étranger ou on va chez des autres chefs. Ça peut même être dans des villes aussi exotiques que Monaco, par exemple. Il y a des chefs qui sont à Monaco ou ailleurs. Et puis après, on fait 1, 2, 3 post-docs et on se localise à un endroit et on crée sa propre petite entreprise, ce qui est toujours passionnant et intéressant. Et ça donne des restaurants qui sont reconnus par vous, par vos parents surtout, vos grands-parents, qui y vont, qui vous y emmènent pour fêter quelque chose et partager un moment de joie. Ça, c'est la cuisine qui rencontre l'art et la culture. Et c'est pour ça que j'ai participé avec joie à cette journée. Je vous remercie.
Merci Bernard. On va commencer tout de suite. Et puis, aux manettes Hervétis, si vous voulez bien commencer.
Manettes.
Vous allez nous parler de chimie et de cuisine. Est-ce que la chimie a sa place en cuisine ? Et je pense que Michel interviendra au fil de votre intervention.
Juste pour dire comment la science et l'art peuvent se rencontrer, bah, ils se rencontrent, ils se serrent la pince, ils s'embrassent. C'est facile. Hein,
ça commence bien.
Parce qu'on dit toujours qu'on est scientifique ou on est artiste, etc. Mais on est d'abord des êtres humains. Et les êtres humains, ils se parlent. Et ils se parlent, alors, ils peuvent se parler au bistrot. Un humoriste qui disait, Alphonse Allais, qui disait « Je hais la vie de brasserie parce que ça nuit à la prière et à l'étude. » Donc, il vaut mieux pas aller au bistrot. En revanche, on peut aller dans des tas d'endroits, par exemple, sur les bancs de l'université ou à l'école ou au lycée, on peut faire des tas de rencontres intéressantes. Et ben, nous, on était à l'école ensemble. Hein, à quelques années près. Voilà. Assez rigolé. Donc, je commence là, ça y est. Bon. Je peux tomber la veste. Oui, bon. Alors, la question est la suivante. On va commencer par faire une expérience parce que j'ai préparé un PowerPoint, mais on verra si on a le temps. Hein. La question est la suivante. On va prendre, ce truc-là. Alors, truc, comment ça s'appelle ? Est-ce que c'est une terrine ? Est-ce que c'est une jatte ? Est-ce que c'est un bol ? Ça me pose des tas de questions. Alors, on va séparer le blanc du jaune. On va mettre le blanc ici. Alors, je ne suis pas HACCP, comme on dit. Hein. J'ai fait toc-toc sur le bord du bol. Et évidemment, c'est une faute, parce que s'il y avait une coquille, me dit-on, ça tomberait, puis il y aurait des microbes qui tomberaient dans le produit. Bon, mais de toute façon, j'ai mis les doigts, alors c'est couillon, ça va. Bon. Alors là, j'ai déjà du mal, moi, à faire la cuisine, parce qu'on m'appelle ça du blanc d'œuf. Alors, c'est quelle couleur ?
Parce que c'est un peu jaune, non ?
C'est un peu jaune, oui. Ouais. C'est jaune tirant sur le vert. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle ça un blanc d'œuf ? Est-ce qu'on a toujours appelé ça un blanc d'œuf ? Alors, réponse, en 1801, on a commencé à appeler ça un blanc d'œuf. Dans le temps, ça s'appelait l'aubin. Alors, aubin, ça vient de alba, qui veut dire blanc en latin. Ils étaient donc aussi couillons que nous, ils appelaient blanc d'œuf un truc qui était jaune. Bon, passons sur ce détail. Tiens, j'y pense. Est-ce que un scientifique a le droit de dire des gros mots ? La réponse est oui, évidemment. On en dit tout le temps. On se brûle, on dit « Ah, bordel, je me suis brûlé !» C'est pas bien, mais... Et ma femme me le reproche, surtout en public. Elle me dit « Tu devrais pas dire des gros mots en public. » Alors je dis « Oui, ma chérie. » Et puis je fais ce que je peux, parce que quand je me brûle, je me brûle. Hein. Alors on va mettre ça dans un four à micro-ondes, comme ils disent. Alors power maxi, le temps tac, jet start, c'est couillon. Ils pourraient pas appeler ça début. Bon, non, ils appellent ça jet start. Alors le blanc d'œuf, vous vous rappelez, c'est un liquide, hein, et c'est 90% d'eau, donc c'est de l'eau essentiellement. Hein. Alors les micro-ondes, il y a des gens qui en ont peur. Faut pas lutter contre les gens qui ont peur. De toute façon, ils auront peur tout le temps. Alors ils disent les molécules tournent à l'envers. On s'en fout complètement. Elles pourraient tourner à l'envers ou à l'endroit, mais ils ont peur. Donc Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est que les micro-ondes chauffent l'eau. Voilà, c'est chauffé. Alors, on ouvre la porte. Là, ça pesait à peu près 30 grammes, ça pèse 30 grammes. Et ce truc-là, c'est un miracle, parce que c'est de l'eau qui est devenue solide. C'est-à-dire, ça, c'est de l'eau, mais c'est solide. Alors, je me brûle, donc j'arrête. Mais ça pose des tas de questions. Alors, ici, on a préparé aussi de l'eau solide. Celle-là, c'est une gelée. Alors, gelée de gélatine, pas de gélifiant nouveau. Ça, c'est... alors là, il y avait... on va dire, ça pèse quoi? Alors, ça pèse... Oh, ça pèse comme un œuf. Un œuf, c'est 60 grammes, donc ça pèse 60 grammes. À peu près, hors de grandeur. Hein. Et donc, ça, c'est de l'eau solide. Donc là, il y a 1 gramme de gélatine et pour à peu près 60 à 100 grammes d'eau. Ça, c'est intéressant parce que... Tiens. C'est de l'eau, hein, vous vous rappelez, c'est de l'eau essentiellement. Si je mets de l'eau sur l'eau, comme ça, je vais essayer de ne pas faire on se dit... Voilà, j'ai mis un peu d'eau. Là, voilà. Maintenant, elle est dans la petite coupelle. J'ai de l'eau sur l'eau. Donc, l'eau devrait rentrer dans le gel et puis ça devrait pisser par en dessous. Eh bien, vous laissez ça pendant 15 jours, il y a zéro goutte d'eau qui pisse par en dessous, alors que c'est plein d'eau et que c'est de l'eau qui est sur plein d'eau. Eh bien, ça coule pas. Alors là, je comprends rien. Alors, je comprends rien. Ça fait 10 ans que je comprends rien sur cette expérience-là. Elle me passionne parce que, évidemment, si cette eau était colorée, vous la verriez diffuser, vous verriez le colorant diffuser lentement. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est difficile de faire un yaourt aux fruits. Si vous mettez une framboise dans un yaourt aux fruits, un yaourt aux fruits, c'est à peu près ça. C'est comme de l'eau. Hein. Vous mettez une framboise dans un yaourt aux fruits, et ben lentement, c'est comme le clafoutis où la cerise va délaver, c'est-à-dire la couleur va partir autour. C'est donc très difficile d'avoir un goût de fruit dans le fruit d'un yaourt aux fruits qui sera stocké pendant 6 mois. Parce que ça se délave progressivement. Et pourtant, l'eau ne coule pas. D'abord, un, elle est solide, et deux, l'eau liquide qu'on met par-dessus, ça ne coule pas. Comment ça se fait Alors ça, le cuisinier, il s'en fout, lui. Hein. Non, complètement. Ouais, oui, complètement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, dans le fond, scientifique, je ne sais pas si je peux représenter le monde scientifique, Bernard Meunier le représente bien mieux que moi, puisque lui, il est membre de l'Académie des sciences. Moi, je suis chimiste de base à l'INRA, j'ai fait mon métier le mieux que je peux. Mais je crois que c'est vraiment ça qui nous passionne. C'est étonnant, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est fait pour des gens peut-être un peu fêlés. Enfin, d'habitude, j'ai les cheveux plus hirsutes. Enfin, je m'entraîne, mais voilà. Alors, voilà une première expérience. Une deuxième expérience qui est absolument extraordinaire. Vous savez que Dieu a créé le vin. Bon. Alors, le vin, il y a donc une odeur qui ne s'appelle pas un arôme, mais un bouquet. C'est le nom du vin. Hein. Pour l'instant, je ne dis pas de bêtises. Je parle sous contrôle. Hein, parce que là, dès que j'arrive en cuisine... Quand je reste dans mon labo, ça va. Mais quand j'arrive en cuisine, il faut faire attention. Et ces gens ont des mots compliqués. Par exemple, ils savent que poêler et sauter, ce n'est pas pareil. Hein.
Les scientifiques n'ont pas de mots compliqués, par
contre. Non. 4,5-hydroxyméthylphénone, ça va. Non, c'est tout simple. D'ailleurs... Alors, voilà. Donc, Dieu a inventé le vin. On va jouer à ce que c'était du vin. Donc, le vin a une odeur. Si le vin a une odeur, ça veut dire qu'il y a des trucs qui sortent du vin et qui montent dans le nez. La preuve, si je bouche, je bloque le passage de quelque chose, donc je ne sens plus. Et puis, il me faut le nez aussi, parce que si je bouge, je ne sens plus. Bon. Donc, c'est quelques trucs, c'est quelque chose, on va les appeler molécules, parce que molécule, c'est quand même plus simple comme mot que hollandaise, ou que béarnaise, ou que sauce zingara, ou que rémoulade, parce que la rémoulade, c'est le bordel en ce moment dans la cuisine. Hein. Il y a des cuisiniers qui croient que la mayonnaise, il y a de la moutarde, alors que Phileas Gilbert, en 1934, dit que la rémoulade, c'est le savorisme particulier de la rémoulade. Hein. C'est pas moi, c'est Phileas Gilbert. Phileas Gilbert, c'est un de ceux qui ont écrit le guide culinaire d'Escoffier, donc c'est quand même pas rien. Hein. Bon alors, bref, je reviens, donc il y a des molécules. Alors les molécules, c'est pas dur. Donc il y a des trucs qui montent, on appelle ça molécules. Bon, pour l'instant, un enfant comprend. Alors, ce qu'il y a, c'est que Dieu donc, a inventé des molécules odorantes. Ces molécules odorantes, elles s'en vont de l'eau. Oui, mais voilà, là, je mets du sucre. Le sucre n'a pas d'odeur. Les molécules de sucre, elles restent dans l'eau, parce qu'elles sont solubles dans l'eau. Ah oui, mais les molécules d'huile, elles restent pas à la surface de l'eau. Alors, on sait bien que quand on distille, on fait ce qu'on appelle des huiles essentielles. Et les huiles essentielles, ça sent très fort, et c'est pas soluble dans l'eau. Comment Dieu a réussi à mettre dans le vin les molécules essentielles, enfin, les molécules odorantes qui sont pas solubles dans l'eau? Alors, l'expérience est la suivante. Grâce à mon ami Philippe Vera, qui est professeur à l'ENSIASET, NCA7, ça veut dire je sais pas quoi, école de chimie de Toulouse, on peut dire. Hein, ça va? Pardon? Et technologie. Ah oui, très technologie, très important technologie. Alors, j'ai donc de l'alcool éthylique. Alors, l'alcool éthylique ou éthanol, c'est une très vieille histoire parce que déjà, au 4e siècle avant notre ère, on distillait et on obtenait de l'alcool. Alors ça, c'est, vous savez, du temps d'Aristote, le philosophe grec, il y avait quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et il y en a eu un cinquième, l'alcool. Alors c'était la quintessence, le cinquième élément. Donc quand vous voyez le film Le cinquième élément, ça veut dire alcool, enfin, en vrai. Hein. Alors du coup, on sait que l'alcool éthylique va dans l'eau. Très bien. Ah oui, mais est-ce que par hasard, notre huile irait dans l'alcool éthylique? Enfin, notre huile ou nos huiles essentielles extraites du romarin, du basilic, de ce qu'on veut. Parce que si ça allait dans l'huile, en mettant l'alcool ensuite... Pardon, si l'huile allait dans l'éthanol, et si on mettait l'éthanol dans l'eau, peut-être que l'huile serait transportée dans l'eau. Alors, c'est ça l'expérience que j'adore. C'est une extraordinaire expérience. Là, voilà. Voilà de l'huile dans l'eau, sous forme d'un nombre considérable de petites gouttelettes. C'est pour ça que c'est blanc. La lumière blanche arrive, se réfléchit sur la gouttelette, donc vous voyez du blanc. Et alors, le malheur, c'est qu'on n'aura pas le prix Nobel avec ça, parce que ça a déjà été inventé, et à Toulouse, on connaît bien, ça s'appelle l'effet pastis. Le pastis, c'est de l'anéthol qui est dans l'alcool. Tant qu'il est dans l'alcool, tout va très bien. On le met dans l'eau. Et alors, rappelez-vous, Alphonse Allais qui disait « L'eau est un liquide très dangereux parce qu'une goutte suffit à troubler le pastis le plus pur, la preuve. » Voilà. Alors, maintenant qu'on a commencé comme ça, il faut revenir à notre... Alors, je n'ai pas travaillé pour rien. Donc, si on me rend l'écran, je vais essayer de dire à Michel Saran... Je vais lui ouvrir mon cœur comme à vous. Hein, voilà. Après, parce que le monde a peur en ce moment. On dit cuisine moléculaire, on va nous empoisonner, c'est salaud, ils veulent faire disparaître le poulet rôti, ils vont nous mettre de l'azote liquide partout. Je ne chercherai pas à dire il ne faut pas avoir peur, ça ne sert à rien. Ceux qui ont peur, ils ont peur. Ceux qui n'ont pas peur, ils n'ont pas peur. Alors, j'ai écrit « Vive la science et vive la technologie » pour une raison que je crois juste, c'est-à-dire que la science, d'abord, qu'est-ce que c'est que la science? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire une carrière scientifique, mais qu'est-ce que c'est? On ne peut pas aller faire des sciences si on ne sait pas ce que c'est. La technologie, alors la technologie, qu'est-ce que c'est au fait? Tiens, l'autre jour, dans un IUT, Institut Université de Technologie, il y avait des gars sympas, des filles aussi, je leur dis, tiens, vous savez au fait ce que vous savez que la technologie? Non, ils ne savaient pas. Donc ils faisaient de la technologie, mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. C'est quand même bizarre, moi. Quand je veux aller de Paris à Toulouse, ben je pars et puis j'arrive à Toulouse. Mais si je ne sais pas que je veux aller à Toulouse, je ne sais pas où j'arrive. Donc, je trouve... Non, tu comprends? Alors, du coup, ça pose des tas de questions. Alors, voilà la cuisine, une des cuisines modernes. Alors ça, c'est des flocons givrés tels que les fait Emile Young, qui est peut-être ici parmi nous. Donc, vous faites une espèce de... Vous battez des blancs en neige. Vous ajoutez du sucre, vous mettez un bon goût de... Alors, Émile le fait avec de la menthe, je crois, hein, de menthe. Et puis, vous faites tomber ces espèces de petites meringues dans l'azote liquide. L'azote liquide, c'est à moins 196 degrés. Et vous avez, cling, une espèce de coque givrée avec un cœur tout mou. Voilà, un flocon givré. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors, on me dit, l'azote liquide, c'est dangereux. Ouais, mais enfin, ça aussi, c'est dangereux. Hein. On meurt. Hein. Bon, alors... là, c'est encore avec l'azote liquide. C'est fait par un chimiste américain qui s'appelle Grant Achatz, c'est à Chicago. Donc, à l'intérieur, il y a une espèce de cœur liquide de foie gras, en quelque sorte. C'est absolument délicieux. Alors ça, c'est des flocons... c'est des cristaux de vent à l'azote liquide. C'est-à-dire, cristaux de vent, c'est comment faire un mètre cube de blanc en neige avec un blanc d'œuf. On les transforme en meringue, on les met à l'azote liquide, on les mange, et puis quand on souffle par le nez, il y a des fumées de taureau qui apparaissent. C'est rigolo comme tout. Hein, les enfants s'amusent. Hein, moi, j'aime beaucoup m'amuser avec ça. Bon. Alors, celui-là, ça, c'est au milieu, vous avez un fromage chantilly. C'est-à-dire que vous avez pris un fromage et vous l'avez fait mousser comme une chantilly. Alors là, c'était du reblochon. Bon. Là, c'est un œuf à 63 degrés, fait par un chef très talentueux, Thomas Cabrol, qui avait un restaurant à La Bruyère, tout près, dans le Tarn, là, Alter Ego, restaurant de paradis extraordinaire. Alors là, il y avait une petite purée, je crois que c'était d'oseille ou d'épinards, je ne sais plus bien. Ça, c'est un œuf à 65 degrés, c'est-à-dire vous cuisez un œuf, vous prenez un œuf comme ça, vous le mettez dans un four et vous branchez 65 degrés. Vous allez vous coucher. Le lendemain matin, vous, vous avez votre offre comme ça. Alors, pas un, on en met 1000, hein, ça coûte moins cher. Et puis, vous faites toc sur le bord, et voilà ce que vous avez, un œuf donc, qui est parfaitement délicat. Le blanc est impossible à faire par notre méthode. Hein. Et le jaune, selon que vous êtes à 65, il est encore liquide, mais à 67, il devient pommade. C'est-à-dire que vous pouvez modeler le jaune, faire une mouillette de jaune que vous mettriez dans du pain, dans un bouillon de pain. Comme ça, ça fait un œuf à la coque inversée. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Michel, qu'est-ce que tu en penses de cette idée-là?
Alors, c'est intéressant. Cette histoire de cuisson, enfin, c'est sûr, je ne refuse pas ce côté scientifique et cette approche de la cuisine. Bon, après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Je ne sais pas si la mouillette de jaune dans le blanc, finalement, gustativement, ce serait intéressant. C'est intéressant de savoir ça aussi, si c'est bon.
Ah, si c'est bon, oui.
C'est la première question, quand même.
Ah ben, je ne sais pas, moi, je ne suis pas cuisinier, donc je ne peux pas répondre. Hein.
Bon,
non, mais la question qui est posée, c'est, voilà, un jour, en science, on regarde, dans un laboratoire, on regarde la cuisson de l'œuf et on trouve ce truc-là. Alors, on a un œuf nouveau, donc un produit nouveau. La science, elle, alors ça, c'est une question, mais la science, elle fait son petit travail. Ensuite, elle franchit la porte du laboratoire, donc les scientifiques ne sont pas dans leur tour d'ivoire, en quelque sorte, pas du tout. Et puis, ils disent aux autres, tiens, voilà, t'as quelque chose. C'est exactement ce que je viens de faire, hein. Voilà, t'as quelque chose, qu'est-ce que t'en fais? Alors, il peut répondre, ah non, j'ai rien envie d'en faire, ça m'inspire pas. Ou bien, ah, il faudrait que je goûte d'abord, ça serait prudent. Ou bien, bon, voilà la question. Alors, il faut qu'on me rende mon machin là. Vous pouvez me le rendre? Alors ça, c'est une viande artificielle. Alors, viande artificielle, ça fait très peur, hein, bien évidemment. Hein. Viande artificielle, vous rendez compte. Mais c'est une viande artificielle, hein, faite par Pierre Gagnère, celle-là. Hein. En fait, c'est des haricots verts qui ont été cuits, creusés, et dans lesquels on a mis un mélange d'eau et de protéines. Alors, ce n'est pas un mélange d'eau et de protéines, c'est une sorte de foie gras. Donc, et lié en fagot, parce qu'une viande, dans le fond, c'est des fibres. Alors, des fibres, il faut les penser comme des petits tuyaux. Hein. C'est-à-dire que un muscle, ici, là, enfin, tout ça, c'est de la bidoche. Hein. C'est donc des tuyaux qui s'appellent les fibres musculaires, dans lesquels il y a, en gros, de l'eau et des protéines. Donc, comme du blanc d'œuf. Et bien là, c'est des petits tuyaux qui contiennent de l'eau et des protéines. Bon, faut-il y aller, faut-il pas y aller? On va réfléchir d'abord. Alors là, c'est une orange artificielle. Une orange, moi je déteste les oranges parce que je ne suis pas très riche, donc je vais au supermarché, j'achète des oranges, et puis une fois sur deux, elles sont un peu sèches, je ne vais peut-être pas à la bonne saison, mais je suis couillon, j'ai pas appris ça. Donc elles sont un peu sèches, mais en gros, une orange, j'ai compris, c'était des petits sacs qui contiennent du jus d'orange. Et le jus d'orange, si je ne peux pas l'assaisonner, il n'est pas assaisonné. Donc si je broie une orange, je fais du jus d'orange, j'assaisonne, ensuite je fais des petits sacs et que je colle les petits sacs entre eux, voilà une orange artificielle.
Tout à fait.
Et ça te va, ça?
Mais ça me va si l'orange au départ est bonne, parce que si elle n'est pas bonne, dans les petits sacs, il n'y aura pas un bon jus d'orange.
Et si je l'assaisonne bien?
Est-ce qu'on va arriver à oui, alors tu vas synthétiser un produit qui va garantir un bon jus d'orange? Parce que l'orange, elle va donner ce qu'elle a de mieux. Bon, l'orange que... Moi, je sais faire la différence entre une bonne orange et une mauvaise orange.
Ah oui, toi, tu sais faire. Mais c'est ça, la question, c'est que lui, il est chef et ne boit pas. Alors, comment je fais à la maison, quoi?
On va travailler ensemble.
On va travailler ensemble, voilà. Alors, du coup, voilà la question. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que ça, c'est ce que vous voyez à la télé, Ferran Adria, Stone Blumenthal, etc. Donc, voilà. Alors, on en est arrivé là pour une histoire. Alors, là, mais je raconte une histoire.
Je ne sais pas s'ils connaissent Blumenthal et
Adria. Ah, ben raconte, c'est ton métier, ça.
Ah non, mais Blumenthal, Adria, ce sont, enfin, tu m'arrêtes, ce sont des cuisiniers qui utilisent beaucoup la cuisine moléculaire, je crois, donc qui sont partis dans une voie assez moderne et qui proposent une cuisine très différente de ce qu'on faisait jusque-là. Et bon, alors c'est vrai que ça intéresse beaucoup de gens, surtout les journalistes d'ailleurs. Mais bon.
Et c'est comme ça qu'on remplit un restaurant?
Pas toujours, non, c'est pas une garantie. Mais par contre, ce qu'ils font est extrêmement intéressant et a plein d'intérêt. Et donc, c'est vrai que là, on voit que le côté scientifique dans notre métier. Et ce n'est pas inintéressant. Et finalement, c'est grâce à des gens comme toi.
Mais alors, du coup, par exemple, Eston Blumenthal, qui est en Angleterre, c'est un restaurant rigolo. Par exemple, le maître d'hôtel va donner la cuillerée au client. Alors, il y a un milliardaire qui arrive et on lui donne la béquée. Enfin, c'est rigolo. C'est un peu irrévérencieux. Il y a un autre truc, c'est pendant que le client mange, fait semblant de manger, le maître d'hôtel lui gratte le bras, parce que ça change le goût. Alors, il y en a un troisième, c'est on lui met un casque, Et alors, c'est un casque branché sur un ordinateur, et on lui dit de manger un crackers. Et alors, le bruit qui est enregistré par le micro, on l'amplifie ou on l'atténue par l'ordinateur, et ça revient dans le casque. Faites l'expérience, ça coûte un petit casque minable avec un ordinateur. Quand vous mangez un cracker, c'est que vous amplifiez le son, vous avez l'impression qu'une maison en verre vous tombe dessus. Et si vous diminuez le son, vous avez l'impression que le cracker, ce qui était croustillant pourtant, qui est vraiment croustillant, devient mou comme un oreiller. Alors voilà à quoi joue Eston, en particulier. Hein. Ça, c'est une cuisine qui te tente ?
On ne parle pas de cuisine, là.
Ah, pardon, on parle de quoi, alors ?
Manger avec un casque sur les oreilles. D'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui le font ici. Ils mettent d'autres choses. Ils mettent de la musique ou autre chose, mais pas forcément...
Ça doit changer le goût aussi.
Ouais.
C'est pas de la cuisine. Ah oui, c'est pas de la cuisine. Pourquoi ?
C'est pas de la cuisine. Ça accompagne la cuisine. Mais est-ce que ça change fondamentalement l'impression et la perception ? Est-ce que ça change le goût ? Non, on a un autre sentiment. Et c'est vrai que, mais l'environnement, je crois que ça c'est pas nouveau. L'environnement dans lequel on est, on dit par exemple de boire du rosé de Provence en Provence n'a pas le même goût que lorsqu'on le boit.
Ouais. Il y a une expérience que tout le monde peut faire. Je vais vous inviter à dire avec moi le mot vinaigre, en y pensant très fort. Hein. Alors je compte jusqu'à 3 et à 3 on dit tous vinaigre, hein. Assez fort. Hein. Alors 1, 2, 3, vinaigre. Un peu plus fort, il faut bien le penser. Hein. 1, 2, 3, vinaigre. Et bien ça y est, vous salivez. Alors ça c'est tout à fait extraordinaire, c'est pourquoi salive-t-on quand on pense le mot vinaigre et quelles conséquences ça a en cuisine. Et bien le vinaigre est une solution acide qui risque d'attaquer les muqueuses. Par exemple, si vous mettez du vinaigre sur une plaie, ça vous brûle. Et bien l'organisme a un réflexe qui fait que quand on va boire du vinaigre, il libère de la salive, parce que la salive est ce qu'on appelle en chimie un milieu tampon, et donc la bouche est protégée contre l'acide. Mais du coup, si sur la carte, il y a marqué orange au vinaigre, eh bien vous allez saliver, et du coup, vous sentirez moins l'acidité de l'orange. Ah ! Donc, l'activité culinaire du chef, hein, c'est donc une activité littéraire, parce que sur sa carte, parce que ça va changer le goût. Hein, donc, les mots vont déterminer le goût des aliments. Ça te va comme idée, ça ?
Je comprends pourquoi, lorsque tu es venu chez moi, tu as pris la carte et tu l'as lue mot par mot. Après, tu m'as expliqué tout ce que tu ressentais à travers la lecture. Et on n'a pas, nous, cette approche-là. Enfin, quand je dis nous, tous les cuisiniers n'ont pas cette approche.
Mais ça pourrait venir.
Oui, ça pourrait venir. Ce n'est pas un axe choisi, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, c'est très intéressant. Nous sommes... Enfin, moi, je suis tout à fait perméable à ce genre de démarche.
Alors, du coup, la gastronomie moléculaire, pardon. Moi, ma discipline, la discipline scientifique que je fais au labo s'appelle la gastronomie moléculaire. Alors, une précaution, gastronomie, ça ne veut pas dire cuisine pour riches. Hein. Les restaurants gastronomiques n'existent pas. La gastronomie, c'est la connaissance raisonnée de tout ce qui se rapporte à l'être humain en tant qu'il se nourrit. Point. C'est donc une connaissance raisonnée. Donc, il n'y a pas de restaurant gastronomique. Dans un restaurant, on mange de la cuisine, on ne mange pas de la connaissance, heureusement, parce que sinon, ça nourrirait pas son homme. Hein. Alors, du coup, la gastronomie moléculaire est née il y a quelques années, une vingtaine. Alors, elle a une préhistoire. Une préhistoire, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont bossé, mais il n'y avait pas le mot gastronomie moléculaire. Alors, il y a des gens qui ont pesé la viande qui fermentait pour voir si ça pesait moins lourd. Bah, c'était déjà... de la science faite, mais ils ne savaient pas calculer. Or, la science moderne, c'est du calcul. Il faut bien le dire, je crois que la science, c'est des expériences et du calcul. Bon, on peut en débattre. Hein. Ensuite, il y a eu Lavoisier. Alors, Lavoisier, ce bonhomme était extraordinaire. Il n'était pas formidable, parce que formidable, en français, ça veut dire qui fait peur. Donc, il était extraordinaire. Il a étudié le bouillon. Il a étudié le bouillon de viande. Ce qu'on ne dit pas dans les petites histoires, malheureusement, c'est que sa femme le trompait avec 10 pontes de Nemours. C'est une salope, alors vraiment, c'est pas bien. Ah ben non, mais enfin quand même, le patron de la chimie moderne, faut pas exagérer, quoi. Vous rendez compte l'hérédité qu'on a, nous chimistes, à avoir un saint patron comme ça. Moi, j'ai peur chaque fois que je quitte la maison, que je laisse ma femme, enfin. Bon. Alors, Rumford, un gars très, très intéressant, qui a étudié la cuisson basse température. Aujourd'hui, on cuit basse température, tu en fais ?
J'en fais un petit peu.
Ben voilà, Rumford l'a étudié. Mais c'est pas lui qui l'a inventé, hein. Les braisières d'antan, c'était de la cuisson basse température, mais on craignait le coup de feu. Alors, Rumford, Justus von Liebig, chimiste allemand, un très grand chimiste, alors très très mauvais caractère, Il a écrit un paquet de conneries sur l'alimentation, c'est considérable. Mais c'était un homme remarquable pour d'autres raisons. Alors, les Américains disent de temps en temps que la gastronomie moléculaire a été inventée par un gars qui s'appelle... bon, peu importe. Et ils ont oublié que dans les années 50, il y avait ce mec-là, Édouard de Pomian, qui travaillait à l'Institut Pasteur, qui était biologiste. Et en fait, il a fait des best-sellers. Plein d'erreurs. Par exemple, il disait que quand on veut battre un blanc en neige, il faut un fouet en métal et un bol en cuivre, parce que ça fait pile. Bah, tout le monde ici, bah, personne n'utilise ces ustensiles-là, et ça marche très bien. Donc, alors, il y a beaucoup de bêtises, mais c'était très bien. C'était très bien parce qu'il déjà, il était... voilà. Et puis, alors, Nicolas Curti, ce bonhomme était tout à fait extraordinaire. Il avait l'idée de mettre de la physique en cuisine, en quelque sorte. Bon. Il y en avait un autre qui avait une idée de faire de la chimie en cuisine. Bon. Et puis, parce que la cuisine, c'est intéressant, c'est important. Il faut en faire pour manger. Hein. Enfin, et puis, ça fait vivre une profession. Il y a zéro chômage dans le milieu hôtelier-restauration. Hein. Tu rentres dans un lycée hôtelier, il y a zéro chômage. Tout le monde a du boulot. Bah, c'est pas comme ça partout, hein. Donc, tu trouves du personnel pour travailler avec toi ?
C'est quelquefois difficile.
Oui, tu vois, oui. Ouais. Alors, du coup, dans les livres de cuisine, il y a des recettes. Donc, nous, voilà ce qu'on voulait faire. Et puis, il y en a eu d'autres. Alors, voilà Harold Maggie, qui est un Américain très sympa, qui a fait un très beau livre. Tiens, il y en a d'autres. Alors, j'ai aperçu mon ami Jean Matricon, quelque part. Il est le deuxième à gauche sur l'image. Mais il y en a d'autres, par exemple Hugo et Beatrice Palma, qui sont des gens absolument merveilleux, professeurs de physique à Palerme, ou Peter Barham, qui est en Angleterre, qui malheureusement s'est dévoyé. Maintenant, il s'intéresse aux pingouins. Ça ne se mange même pas. Et puis alors voilà, donc un jour, on a dit ça, on a dit on va faire de la gastronomie moléculaire. Et puis on avait un programme, ce programme est foireux. Et alors, je suis désolé. Alors, ah oui, tiens. J'ai fait exprès de mettre de l'anglais. Parce qu'il n'est plus possible au XXIe siècle de ne parler que latin. On est bien d'accord, hein ? Donc, pour apprendre l'anglais, ce n'est pas difficile. Vous prenez Harry Potter en anglais, vous le lisez une fois, deux fois, trois fois, dix fois, et après, vous parlez l'anglais. Alors, il y a marqué qu'on avait un programme scientifique, et puis on a dit qu'on allait explorer les recettes, c'est de la science, explorer les tours de main culinaires, c'est de la science, mais inventer des plats nouveaux, ça, c'est de la technologie, l'invention. La découverte se fait en science et l'invention se fait en technologie. Alors, évidemment, les deux peuvent se frotter, hein, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, je crois. Numéro 4, introduire en cuisine de nouveaux ingrédients, ustensiles et méthodes, c'est encore de la technologie, c'est de l'application des sciences. Et puis, numéro 5, montrer que les sciences sont belles, ça, je ne renie pas cette affaire, mais c'est de la communication, de la politique, mais ce n'est pas de la science. Alors, du coup, alors, il y a eu des congrès en Sicile, vous voyez, c'est des endroits extraordinaires. Alors... évidemment, et on est payé par l'État pour aller là-bas. Hein. C'est formidable. Hein. Non, formidable, ça fait peur. Alors voilà les congrès. Alors voilà, il y avait des cuisiniers, des scientifiques. Tout le monde était heureux. Et puis on se retrouvait parce que, alors là, on distillait des bouillons, tiens, pour savoir ce qui ça va changer le goût. Sous vide, parce que voilà. Alors voilà encore des congrès. Alors il y avait du champagne offert par Mouette et Chandon tout le temps. C'était sympa. Donc on buvait du champagne tout le temps. C'est extra. Alors, il y a eu des thèses. Des thèses, oui, on a dit. Donc, on rigolait. Il y a eu des laboratoires. Jean-Marie Laine, pardon. Si vous voulez voir une vie exemplaire, regardez la vie de Jean-Marie Laine. Ce bonhomme est tout à fait merveilleux. Et je ne le dis pas parce qu'il m'a donné un labo et qu'il me patronne. Enfin, je ne sais pas. Non, c'est un copain. Mais Jean-Marie, c'est un gars extra. À mon avis, il mérite un deuxième prix Nobel. Et militez avec moi, militons pour que vous allez écrire à Stockholm en disant Jean-Marie Laine doit avoir un deuxième prix Nobel. Bon. Alors, il y a des séminaires mensuels gratuits. J'ai l'honneur de vous dire qu'à Nantes, vous rendez compte, ils viennent de créer un séminaire mensuel de gastronomie moléculaire. Pourquoi pas Toulouse ? Tiens, en fait, c'est prévu dans le pôle ? C'est prévu dans le pôle. Ben voilà la bonne nouvelle du jour, ils ne me la disaient même pas. Eh bien, alors, donc, ces séminaires, c'est public, c'est gratuit, on vient, on se rencontre, on travaille. Quoi de mieux, hein ? Ah oui, parce qu'on travaille, parce que ne pas travailler, c'est un emmerdement. C'est-à-dire qu'on va se mettre sur le dos, comme ça, et dire, ah oui, et puis moi, je m'emmerde quand je ne travaille pas. Il faut dire que c'est amusant. Bon, alors, t'es d'accord avec moi ou pas, non ?
Oui, tout à fait, je t'écoute religieusement.
Alors, qu'est-ce que c'est que la science ? Alors, les scientifiques, j'ai fini par comprendre au bout de 20 ans, parce que je suis un peu lent. Les scientifiques sont des gens qui arrivent, ils voient un phénomène, ici c'est une montagne, et puis ils disent, pourquoi est-ce qu'il y a une montagne ? Parce que que c'est vrai qu'à Toulouse, il n'y a pas de montagne. Je n'ai pas vu. Enfin, vous avez des montagnes, vous? Non. Bon. Donc, le scientifique, il est payé pour dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a une montagne? Alors, pour ça, il a une méthode. Alors, cette méthode, la voilà. J'en profite pour endoctriner un peu en criant « Vive la science hein. !» Donc, le scientifique regarde, numéro un, il regarde le phénomène, il y a une montagne. Le numéro deux, il va sur la montagne, donc si on aime voyager, on est content, et là, il fait des carottes, il fait des trous, il prend des trucs, et il fait des tas de nombres. Il mesure l'altitude, la pente, le machin, combien ça varie en fonction du temps, plein de nombres. Donc, si on n'aime pas les nombres, je ne crois pas qu'on puisse faire de science beaucoup, enfin, ça paraît difficile. Ces nombres, comme il y en a trop, on va faire des lois. Alors, vous en apprenez au lycée, P égale MG, U égale RI, F égale M gamma, E égale 1 sur 4 pi, MC 0, QQ prime sur R2, enfin bref, c'est pas très compliqué. Regardez, U égale RI, U égale RI, c'est quand même pas compliqué, n'importe quel imbécile comprend ça. Alors, on a des lois, et là, on n'a pas fait le boulot, parce qu'il faut trouver des mécanismes, c'est-à-dire comment les montagnes se forment. Alors, les montagnes se forment de la façon suivante, ben, voilà une théorie. Ben, si on prend les plaques continentales qui flottent à la surface du globe, elles se rapprochent, voilà, il y a une montagne. Ben, mais ces théories sont fausses, parce que c'est des modèles réduits de la réalité. Donc ce qu'on va faire, c'est on ne va pas se mettre dans un fossé en disant « Ah, je suis content, j'ai produit une théorie ». Non. La science, elle dit le contraire. Elle dit « La théorie est fausse, en quoi est-elle fausse ?» Eh bien, réponse, cette montagne que vous avez vue, en fait, ce n'est pas du tout cette théorie-là. C'est cette théorie-là, c'est-à-dire qu'il y avait le continent, puis d'un coup, il y a de la lave qui monte, et ça s'appelle un volcan. C'est-à-dire que cette montagne n'était pas une montagne, mais un volcan. Donc vous voyez que la science, ce n'est pas du tout ce qu'on pense d'habitude. C'est faire des expériences, faire du calcul, et il faut dire que le calcul, c'est absolument merveilleux. L'autre jour, j'étais dans un pays lointain, après un voyage en avion où tout le monde dégueulait parce qu'on avait servi des trucs pas terribles, eh bien, j'étais plus bon à rien qu'à faire des calculs de mécanique quantique. Et c'était le bonheur. Périodiquement, Potel et Chabot, qui est un traiteur, me donne des places pour la tribune d'honneur de Roland-Garros, et je leur dis merci, mais je préfère rester à la maison pour calculer. Ça m'emmerde de regarder des ballons qui passent de gauche à droite ou des balles. Ben, vraiment, il faut le dire, c'est une espèce de terrorisme du sport. Alors, le sport, c'est vachement bien, hein, mais non, ça nous emmerde. Les équations différentielles, vive les équations différentielles. Non, t'es pas d'accord?
Franchement?
Oui.
J'aime bien un match de rugby, quand même.
Ah bon? Ouais, mais enfin, les gens de Toulouse, y a rien à en tirer. Enfin bon. Ah, j'ai réussi à les faire réagir. Une fois avec vinaigre et deux fois avec ça. Bon. Alors, voilà la gastronomie moléculaire, on va passer rapidement. Je vous invite à mes cours, ils sont publics et gratuits, parce que agent de l'État, c'est public gratuit. Hein. Un truc important, regardez cette recette de compote de poire. C'est tout à fait extraordinaire. En rouge, il y a marqué l'objectif. C'est complètement dilué, c'est-à-dire qu'en gros, une compote de poire, c'est vous prenez des poires, de l'eau, du sucre, on chauffe. Pourquoi ils ne nous disent pas dès le début? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas bien compris. Donc, il s'agit de comprendre. C'est-à-dire, si on vous disait une compote de poire, c'est de l'eau, des poires, du sucre, on chauffe, ça serait plus simple. Après, on vous dirait des détails. Par exemple, il y a plein de conneries. Par exemple, ils vous disent peler les poires. Mais l'essentiel du goût des fruits à peau est dans la peau. Donc, on ferait mieux de peler les poires, mettre la peau dans un petit linge, le cuire avec la compote et ensuite enlever le petit linge. Ça paraît évident. Ben non, on est au 21e siècle. On envoie des sondes sur Mars. Et on jette la peau dans laquelle il y a du goût. Ça fait couillon, hein. Non,
qu'est-ce qu'il advient des produits qui sont sur la peau, alors, des produits de traitement et autres?
Bah, tu les laves avant de
peler la poire. Et ça suffit pour les faire partir? C'est une question que je pose aux scientifiques.
Ouais, la toxicologie ne m'intéresse pas beaucoup, parce que... Non, mais pour la raison suivante, c'est que les gens fument. Et là, ils ne se posent plus la question du tout de savoir si la fumée de cigarette et les goudrons sont bons pour leur santé. On voudrait que pour les fruits, on s'en intéresse, mais à côté de ça, on fume. Je refuse de m'intéresser à des détails. C'est-à-dire, quelle est la forme de ce truc-là? D'abord, c'est un rectangle. Ensuite, si je regarde, je vois bien que ce n'est pas un rectangle. Mais essentiellement, c'est un rectangle. Donc, je vais d'abord regarder, pour ce qui est de la toxicologie ou la diététique, la question du « c'est un rectangle ». Le reste, parce que c'est des... Il faut aussi, imagine que tu vois... C'est une bonne question, ça, c'est une excellente question. Imagine que je sois capable de détecter une molécule, que la chimie devienne capable de détecter une molécule. Tu vas trouver partout la molécule toxique. Mais est-ce que c'est toxique pour autant? Parce qu'en revanche, les barbecues, si je te le fais, les beaux jours arrivent, toute la région toulousaine fait des barbecues. Hein. Donc on prend le barbecue, on met le charbon, on allume, on attend qu'il n'y ait plus de flamme. Bon. Et puis ensuite on met une grille, on pose la viande, les saucisses, hein, et bling, la graisse fond, réenflamme les flammes, ça charbonne. Il y a plus de benzopyrènes cancérogènes, dont on sait qu'ils sont cancérogènes, qu'on en respire en 10 ans à Paris. Alors, faut-il s'intéresser à ce genre de conneries, quoi ? Arrêtons les barbecues, interdisons les barbecues, ou alors...
Oui, mais est-ce que ça ne t'intéresserait pas par un procédé, je ne sais pas, inventé, de blanchir la peau et de la rendre propre à la consommation sans que...
Oui, mais je perdrais ce goût extraordinaire. Ah, ouais. Peut-être, j'en sais rien. Si, ça m'intéresserait beaucoup. Mais c'est une autre aventure, c'est-à-dire que je ne peux pas tout faire, j'ai que deux bras et... Et il y a déjà beaucoup à faire. Hein. Alors, du coup, voilà. Alors, en fait, il était dit ici, à la fin, qu'on pouvait faire rougir les poires dans du cuivre étamé. Ça n'est pas vrai. C'est pas avec l'étain ni avec le cuivre. C'est plutôt avec l'acidité. Et en fait, dans le temps, il y avait des poires acides. Donc, elles rougissaient spontanément. Et on croyait, en cuisine, que c'était le cuivre ou l'étain. Et donc, il n'y a pas besoin ni de cuivre qui est toxique, ni d'étain qui est toxique. Donc, c'est les poires qui rougissent spontanément. Là, tu vois, elles sont rouges. C'est simplement, on a acidifié. Acidifié, ça risque d'être acide, mais si on met du sucre, c'est plus acide. Donc ça va. Bon. Alors du coup, voilà les molécules. Vive les molécules. Elles sont très très belles. Celles-là, c'est des polyphénols, c'est des molécules extraordinaires. Il y en a dans le thé, il y en a dans le café, il y en a plein de trucs. Avec les fruits rouges, il y a des changements de couleur. Alors, il y a des dictons culinaires. Oui, c'est, on a cuit des cochons de lait rôti pour savoir si quand on leur coupe la tête, la peau devient plus ou moins croustillante. Hey, alors, qui pense que oui ? Non, personne. Pourtant, c'est écrit dans les livres de cuisine. Hein. Qui pense que non ? Oh. Alors, qui hésite ? Ouais, les autres. Bon. Eh bien, c'est très bien. Parce que tant qu'on n'a pas fait l'expérience... Alors oui, dans mon laboratoire, sur la porte, il y a marqué « Tenir le probable pour faux jusqu'à preuve du contraire ». C'est prudent. Bon. Donc, les Toulousains sont comme les Normands, ils sont prudents. Voilà ce que je retiendrai d'aujourd'hui. Alors, du coup, au fait, où il est le jaune d'œuf dans un œuf ? Alors j'entends, au centre. Pardon ? Dites-le plus fort, j'entends pas. Au milieu ? En haut ? En bas ? Regardez donc l'image de droite ! Le jaune flotte parce qu'il y a des graisses et que le blanc d'œuf, c'est de l'eau. Et alors maintenant, où il est le jaune ? En haut. Et maintenant, dans mon œuf dur, dans la casserole, où il est le jaune ? En haut. Donc j'ai perdu une étoile au guide Michelin parce que quand je fais un œuf dur, j'ai pas le jaune au centre.
Oui, tout à l'heure dans l'expérience, on a bien vu que dans la cuisson à basse température, donc si on laisse dans la coquille, on a le jaune qui est au milieu.
Ou pas, parce que je l'avais fait rouler.
Ah.
Oui, parce que c'est pas en le faisant tourner, parce que là, le jaune est en haut. Là, je fais tourner, le jaune est toujours en haut. En revanche, si je fais rouler, là, le jaune, il reste au centre. Mais comme je me brûle, je prends une cuillère en bois. Alors voilà, voilà. Voilà l'enjeu de l'affaire. Alors je passe là-dessus. Alors du coup, au labo, il faut quand même dire, je n'ai pas honte de dire que l'INRA me paye pour étudier la mayonnaise, le pot-au-feu, le cassoulet et le bouillon de carottes. Alors, je voudrais vous montrer cette image. Oui, c'est à gauche, il faut regarder. Oui, les gens sont heureux dans les laboratoires. Et ils sourient, ça existe, hein. Vous rentrez, vous ouvrez la porte, les gens sourient, hein, comme les autres, hein, et ils sont contents. Hein. Alors, voilà les bouillons de carottes qu'on a fait cuire pendant 3 ans. Alors, donc, on a utilisé une méthode qui s'appelle la résonance magnétique nucléaire, donc vous voyez l'appareil en haut. C'est Jean-Marie Laine qui me l'a donné, donc je suis extrêmement content et fier que Jean-Marie m'ait donné ça. Ça vaut une fortune, hein. c'est un cadeau mieux que tout ce qu'on peut me faire. Hein. C'est le plus beau des cadeaux que j'ai jamais reçu. Et voilà les spectres qu'on obtient. Alors avec ça, ce qu'on essaye de savoir, c'est que, en gros, dans un bouillon de carotte, j'ai représenté la carotte à gauche, vous avez essentiellement du glucose, du fructose et du saccharose. Donc il y a les initiales, hein. Sucrose, enfin saccharose, glucose, fructose. Et alors, ces machins-là sortent dans l'eau du bouillon. Et donc, un bouillon de carotte, c'est d'abord du glucose, du fructose, du saccharose. Ensuite, il y a des acides aminés, mais on ne va pas en parler sur cette image. Il y a marqué HMF. Alors, HMF, c'est un truc extraordinaire. Le vrai nom, c'est... Ah oui, tiens, tu vas rigoler. Hydroxyméthylfurfural. C'est un gros mot, hein. Mais oui, mais c'est... Oui, mais du coup, on dit HMF, on ne dit pas hydroxyméthylfurfural. Ça, on l'écrit sur les publications, mais sinon, c'est HMF. Et alors, ce qui est marrant, c'est que quand on chauffe du glucose Le glucose, c'est un sucre, c'est le carburant de nos cellules. Quand on le chauffe dans l'eau, spontanément, ça se transforme en hydroxyméthylfurfural, qui a une très belle odeur, un peu de caramel, enfin de, tu vois, de cuit, de carotte cuite, voilà. Ça veut dire qu'on a fait des réactions chimiques dans l'eau lorsque nous cuisons. Alors ça, c'est passionnant, parce que tu avais peur des solvants organiques, tu vois, les solvants de la chimie, qui, etc., etc. Ah oui, en plus, on est à Toulouse, où il y a AZF, alors là, c'est, ils ont tous peur de la chimie, là-dedans. En fait, quand on cuit, on fait de la chimie organique dans l'eau. Pas de solvant organique, et cette chimie est très mal connue. Moi, si je n'étais pas à faire ce que je fais, je crois que je ferais ce que je fais. C'est-à-dire que je me lancerais dans l'étude de la chimie organique dans l'eau. Bon. Une fois qu'on a mesuré combien il y a de sucre dans l'eau, on va dire sucre pour faire simple, on ne s'arrête pas, hein, parce que ce qu'on veut, c'est faire du calcul. Donc on fait ce qu'on appelle des équations différentielles. C'est tout simple, mais ce n'est pas aujourd'hui que je raconte. Alors du coup, donc on s'amuse beaucoup. Et puis, de temps en temps, il y a des trucs. Alors un jour, par exemple, Anne Cazor, qui faisait sa thèse, fait les deux bouillons que vous avez à gauche, là. Et puis j'arrive, parce qu'au labo, il y a une règle. C'est que quand un étudiant fait une expérience, je veux la voir. Parce que comme il me vole mes expériences, moi, je veux pouvoir participer quoi, à ce jeu-là. J'arrive, le bouillon de gauche, il était orange. Le bouillon de droite, il était marron. C'était pourtant la même carotte coupée en deux dans le sens de la longueur, mise dans de l'eau parfaitement pure et chauffée à 100 degrés pendant le même temps. Comment ça se fait? Eh bien, regardez bien, vous verrez qu'à droite, le réacteur, il est un peu enfoncé, il ne reçoit pas autant de lumière. Et alors ça, alors là, on a arrêté toute l'activité du laboratoire et on a regardé ça, alors on a fait des mesures, on a vu comment la couleur évoluait. On a fait des calculs pour comprendre comment ça pouvait évoluer. On a fait des expériences pour voir quelles molécules pouvaient donner ces changements de couleur. Et finalement, voilà, il y a deux courbes. Il y a un escargot bleu et puis un escargot pointillé. L'un, c'est avec la lumière. L'autre, c'est pas la lumière. C'est la lumière qui faisait changer de couleur. Alors, les cuisiniers sont intéressés, dans le fond, par ça. Parce que quand ils font un bouillon de carottes, sauf s'ils mentent, ils mettent un oignon roussi pour donner de la couleur ou du caramel. Il n'y a pas besoin. Il suffit d'enlever le couvercle et de mettre de la lumière. Parce que l'oignon roussi, il donne de l'amertume. C'est vrai, hein? Donc là, alors voilà la relation entre science, découverte, technologie. Alors, du coup, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus. Ma question, Michel, tu es un artisan ou tu es un artiste? Réponds-moi que tu es un artiste, allez.
D'accord, je suis un artiste.
Ah, formidable! Il y a une vraie différence. Donc ceux qui veulent être cuisiniers, il faut qu'ils se posent la question, quelle va être mon activité? Est-ce que ça va être artisan ou artiste? Hein, c'est... Non mais en vrai, tu es un artiste, non?
Je ne sais pas. Répondre à ça, parce qu'après, c'est jouer sur le langage. Moi, j'aurais plutôt tendance à me considérer comme artisan d'art, mais quelle est la signification pour toi, un artisan d'art? L'artiste, ça me fait toujours un petit peu peur, parce qu'il y a un côté... Qui me gêne dans la définition de l'artiste.
Ah, tu veux donner de l'émotion ou pas?
Ah, je veux donner de l'émotion.
Bon alors.
D'accord.
Non mais c'est marrant, parce que le monde entier de la peinture, ils n'hésitent pas en peinture. Hein. Il y a les peintres en bâtiment d'un côté,
oui.
Et puis il y a Rembrandt de l'autre. Rembrandt, il ose dire qu'il est artiste. Les musiciens, c'est pareil. Il y a des gens qui vont jouer dans un orchestre pour tenir le crin-crin, et puis il y en a d'autres qui disent « je suis soliste, je suis Rostropovitch, je suis... » Bon, ils osent dire. Il n'y a qu'en cuisine où ils n'osent pas dire.
Mais je ne suis pas sûr que tous les musiciens procurent de l'émotion. Alors, comment il faut les appeler, cela? Quand derrière, il n'y a pas de perception émotionnelle...
Bah, ils font de l'artisanat.
D'accord. Alors, est-ce que je crée de l'émotion? J'espère que c'est ma quête, mais...
Alors, je vous invite tous à aller chez Michel Sarran pour voir s'il est artisan ou artiste. C'est eux qui vont répondre.
D'accord.
C'est cher? Oui. Pas assez. Non.
Ça nous aide beaucoup.
Non. Ça n'est pas assez cher parce qu'une toile de Picasso, c'est des millions. Quand vous allez à l'opéra, c'est beaucoup plus cher que chez toi. Et c'est insupportable qu'on accepte de payer cher pour l'opéra. Et dès qu'on va dans un restaurant, on dit « Ah, c'est cher ». C'est pas vrai. C'est vrai pour un artisanat. Mais ce n'est pas vrai pour de l'art. T'es d'accord? Ouais, bon, voilà. Alors ça, ce n'est pas de l'art, en revanche. Hein. C'est une sculpture en beurre à Cuba, où ils n'ont rien à bouffer. Mais ils font des sculptures de 2 mètres de haut. C'est con, là. En plus, c'est moche. Hein. Celui-là... Alors oui, on vous parle du nombre d'or. Alors le nombre d'or, je vous invite à ne pas vous laisser faire par le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est un truc marrant. C'est, on dit, alors les bâtisseurs de cathédrales, ils avaient le nombre d'or. Alors en gros, le nombre d'or, c'est vous prenez un rectangle, vous divisez la longueur par la largeur. Bon, ici, c'est un peu plus grand, donc ça va dire 1, des poussières. Comme là, j'ai 20. Ensuite, vous repliez, et là, vous voyez, vous avez un autre rectangle. Vous divisez la longueur par la largeur. Alors là, le rapport, il est passé à 2 ou 3. Bon, il y a des rectangles qui, quand on les replie comme ça, enfin comme ça, comme j'ai fait là, donne un autre rectangle qui a les mêmes proportions que le premier. Alors, cette proportion, c'est le nombre d'or. Alors, on vous dit, ah, oh, le nombre d'or. Alors, souvent en cuisine ou dans la franc-maçonnerie, le nombre d'or, c'est extra, c'est la règle du monde. L'homme est construit selon le nombre d'or, donc c'est un être au-dessus, au sommet de la création. Tintin, sommet de la création. On a eu l'esclavage pendant des siècles, sommet de la création. Bon. Alors, donc, où est le plus beau, en quelque sorte? Est-ce que c'est le nombre d'or? Ben non, moi je préfère celui de gauche. Toi tu préfères lequel?
Moi j'aime bien celui du milieu.
Celui du milieu.
Il n'y a pas de milieu, puisqu'il y a quatre figures. Ouais.
Enfin, ben, bref, le troisième.
Voilà, le troisième.
Eh ben, il n'est pas au nombre d'or. Ouais. Moi j'aime bien le carré aussi, hein. Il est pas mal le carré. Hein. Bon, alors du coup, si vous voulez faire une assiette belle, c'est pas la peine d'aller mesurer l'assiette pour dire « Ah tiens, je vais mettre le plat au nombre d'or, c'est couillon. » Ça c'est pour ceux qui croient au nombre d'or. Bon, alors du coup, passons sur... Alors, on m'a dit, il y a un copain un jour qui m'a dit, ah oui, mais l'œuf est beau, parce que l'œuf est construit selon le nombre d'or. Alors, j'ai pris 4000 œufs, j'ai divisé le grand axe par le petit axe, je trouve 1,4. Je ne trouve pas le 1,618,28 du nombre d'or. Hein. Donc, ce n'est pas vrai que l'œuf est beau parce qu'il est au nombre d'or. Il est peut-être beau. Tu trouves ça beau, toi? Ce sera terrible. Ah, hein.
Je ne vais pas passer des journées entières à savoir si.
Ah, oui,
si
oui,
je
oui.
trouve le nombre d'or.
Ah oui, bah, oui c'est ça. Oui, oui. Bah, t'as un restaurant à faire tourner. Hein, oui. Ah oui, mais attends.
J'ai pas l'INRA derrière.
Oui, mais c'est pendant le week-end, hein, j'ai le droit. Ouais. Ah,
tu fais ce que tu veux.
Et c'est une époque où j'étais pas à l'INRA. Hein. Mais ça serait une erreur de pas le faire aujourd'hui. Ça serait une erreur. Parce qu'une fois le résultat posé, il est posé, il est là. Hein. On l'a. Bon, alors, tiens, voilà une histoire merveilleuse. On a encore du temps ou pas? Mais il n'y a plus de pile sur le micro. 5 minutes, il faudra aller vite. Alors, Michel Chevreul, chimiste, a découvert une loi visuelle qui a engendré une école de peinture. Est-ce que la chimie peut découvrir des choses qui vont faire que l'art change? Voilà la question. Voilà, quand on regarde Aristote et comment il racontait une histoire, on voit qu'une histoire, ça commence par le début, ça finit par la fin. Bon. Mais une histoire, elle doit vous retarder. Ulysse, il est retardé. Et, par exemple, il couche pendant 7 ans avec Circé. Ça retarde, hein, 7 ans. Hein. Bon. Alors du coup, l'assiette est pleine, l'assiette va finir vide. Il faut retarder. Donc il faut retarder comment? Ben, en donnant de la consistance. Et voilà pourquoi on cuit. C'est parce que là, il y a de la consistance. C'est-à-dire, au lieu d'avoir de la flotte comme le blanc d'œuf liquide, ben maintenant, c'est dur. Alors, voilà le... Alors là, est-ce qu'on est en cuisine? Alors tiens, la viande, c'est pareil. D'où la viande artificielle. Les légumes, les fruits, des cellules, des sacs... Attends, la viande, les légumes, les fruits, les poissons sont des gels, puisque un gel, c'est de l'eau pris dans un solide. Donc quand les critiques culinaires disent un tel cuisinier qui fait la cuisine moléculaire, c'est pas bon parce que c'est mou et que c'est des gels, c'est peut-être mou, mais c'est pas le fait que ça soit des gels, parce que la viande c'est des gels, donc c'est couillon. Hein, bon. Alors, voilà, donc une orange artificielle, la voilà encore. Alors des calculs, évidemment, des calculs pour inventer des plats nouveaux. Technologie, c'est-à-dire les applications de la science, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors d'abord, je suis très content d'avoir trouvé cette image. La science produit des connaissances, et ces connaissances, on peut les appliquer de deux façons. Dans l'enseignement ou bien dans la pratique technique. Alors, l'art n'est pas représenté parce que ce n'est pas le sujet, mais donc voilà les applications de la gastronomie moléculaire. Alors, par exemple, est-ce qu'on peut rénover le poulet rôti? Vous voyez, on faisait des poulets rôtis au Moyen-Âge, on continue aujourd'hui, ça fait bizarre. On roulait en char à bœuf, on est en bagnole, mais là, le poulet rôti, on l'a toujours. Tiens, est-ce qu'on pourrait pas virer le cassoulet, faire une loi qui interdise le cassoulet, non?
Tu reviens plus manger ici après.
Ah oui, on peut pas, ouais. Les ustensiles n'ont pas beaucoup changé encore, mais ça peut venir, à condition qu'on le veuille. Parce que voilà le problème. Le problème, c'est nous. On est là, et on est accroché à notre cassoulet imbécile. Moi, je suis alsacien, donc je pourrais dire la choucroute, hein, la choucroute idiote. On est accroché à ces trucs-là, et tu vois, la réponse, hein, c'est pas possible de penser qu'on puisse le perdre.
Mais est-ce qu'il faut... C'est très bien ce que tu nous démontres et ça apporte énormément, la science va apporter énormément à la cuisine, ce n'est pas pour ça qu'il faut bannir le passé, tu es bien d'accord. Parce que tu me dis, le poulet rôti, on le faisait, oui, la peinture aussi, on peignait de la même façon il y a des centaines d'années.
Mais l'esclavage, on le faisait traditionnellement.
Mais ce n'est pas les mêmes valeurs quand même. Faut pas...
Mais est-ce que le poulet, il n'a pas mal quand tu le tues?
Si.
Ah, alors.
Certainement.
Faut-il faire souffrir les êtres vivants?
J'ai lu qu'un scientifique...
Et le poireau, le cri du poireau quand on l'arrache
s'était penché sur la souffrance des langoustes.
Ah, les langoustes, ouais, c'est important. Ouais.
Mais je ne sais pas si c'est important. C'est important pour... C'est vrai qu'on a un côté un peu inhumain, quoi. On ne s'attache pas... Enfin, inhumain, la langouste, c'est pas, en même temps, ce n'est pas tellement humain.
Ouais. Non, mais en vrai, on était de connivence. N'oubliez pas que quand je suis sérieux, je rigole. Parce qu'on n'a qu'une vie. Alors, voilà, des enfants de l'âge de 6 ans faisant 1 mètre cube de blanc en neige avec un seul blanc d'œuf. Ça ne fera pas les mêmes cuisiniers que par le passé. Hein. Alors, les applications technologiques, les voilà. Tiens, voilà Émile Jung au milieu, Ferran Adria, Eston Blumenthal. Je suis désolé, je n'ai pas ta photo, mais si tu me l'envoies, je la mettrai. Voilà Pierre Gagnère qui est mon pote, enfin qui est un de mes potes. Hein. Les rois, ils vont manger chez Pierre Gagnère aujourd'hui. Les rois, c'est des gens riches. Moi, je n'ai pas une solde de l'INRA, je ne peux pas aller chez Pierre Gagnère, évidemment. Hein.
Mais tu vas souvent quand même.
Bah, il m'invite, donc ça va. Ouais, ouais. Non, mais j'ai trouvé la combine. Hein. Alors, chez Pierre Gagnère, que vous avez à votre gauche, le voilà. Donc, il y a un site où je donne une invention par mois et Pierre fait une recette. Alors, maintenant, la cuisine moléculaire, parce que ça, c'est... Je sais qu'il y a des TPE qui se préparent. Il y a une définition. La définition de la cuisine moléculaire, alors, c'est utiliser des nouveaux ustensiles, des nouveaux ingrédients et des nouvelles méthodes. J'ai mis « nouveau » entre guillemets parce que, évidemment... l'azote liquide, c'est il y a longtemps. Moi, voilà ma photo en 84, mais il y en avait bien d'autres. Peter Barham l'a fait, mais surtout, alors il y a une bonne femme, j'ai oublié son nom, en 1907, à Londres, elle avait déjà fait ça. Donc, c'est pas neuf. Pourtant, c'est vrai qu'en cuisine, on n'a toujours pas... Vous voyez, pour filtrer les bouillons qui sont troubles, on clarifie avec des blancs d'œufs. Pourtant, on mettrait dans un filtre de laboratoire, c'est clair, en un moment. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des filtres de laboratoire dans toutes les cuisines. Alors, réponse, si, parce qu'ils sont en verre et que ça casse. Mais donc, il faut en faire en métal. C'est pas difficile. Les ampoules à décanter. Tu as un bouillon gras. Alors, je le fais, le bouillon gras. Hein. Tu as un bouillon gras. Donc, tu vas arriver avec ta cuillère. Tu enlèves le... C'est ça, hein? On enlève le dessus. Mais comme c'est un peu encore gras, parce que ça colle au bord, alors tu prends un papier. Puis là, alors, ça, c'est un emmerdement. Ben, on mettrait ça dans une ampoule à décanter. On ouvre. Le bouillon clair trouve. On ferme. Le bouillon n'est plus gras. Ça t'intéresse, ça?
Tout à fait.
Bon, alors, il faut en acheter un demain. Hein. J'ai rien à vendre, donc c'est pas...
Je le trouve où?
Ah, chez tous les fabricants de produits chimiques, de matériel chimique, de laboratoire.
D'accord. Ah ouais, deux, trois
adresses. Je te donnerai l'adresse, ouais. Alors, du coup, je passe... Alors, il y a encore plein de trucs à faire dans les labos, hein. Il y en a plein. Les chimistes ont inventé des tas de trucs. Alors, je vais passer là-dessus, parce qu'on n'a pas assez de temps, sur le fait que le technicien puisse améliorer sa pratique, mais ça peut être aussi un scientifique. Et alors, du coup, voilà la technologie améliorée par le praticien, et voilà la technologie améliorée par le scientifique. À droite, vous avez un appareil qui fait 500 milliards de plats. Donc, vous tapez sur un ordinateur blanc en neige, et vous faites le blanc en neige. Vous tapez béarnaise, et vous faites le béarnaise. C'est bien, ça, non? Non, ça le fait rigoler. Non, mais il a peur, parce que ça va mettre les cuisiniers au chômage.
Alors, explique-nous.
Là, tu vois, tu as des petits trous, les petits trous qui arrivent. Tu vois, il y a des petits trous, des petits plots. On prend, bah tiens, j'ai l'image. Bah, tu prends une pompe.
Ça vous donne faim, non?
Et puis, à gauche, sur le truc bleu, il y a ce qu'on appelle des micro-réacteurs. C'est-à-dire qu'on injecte du blanc d'œuf, on injecte de l'air, et tu as un blanc neige. Alors ensuite, tu les mets en série et en parallèle, comme en électricité. Et puis voilà, le genre, tu tapes la formule, et crac, tu as le plat. Alors là, il n'était pas saisonné, je suis d'accord. Mais là, voilà le meuble. C'est-à-dire que tu as la machine, tu tapes la formule. Alors là, c'était pour faire des cocktails. Hein, voilà les cocktails. Et puis ensuite, voilà un prototype. Voilà. Alors, la cuisine note à note, c'est une cuisine entièrement de synthèse, mais aujourd'hui, on ne peut pas en parler, parce que ce n'est pas possible. Déjà, je vous ai fait peur avec votre poulet rôti, donc je ne vais pas vous dire qu'on va jouer à faire une cuisine note par note, c'est-à-dire molécule par molécule. Enfin, pas molécule par molécule, mais composé par composé. Donc, on va mettre un peu de... On prend un récipient, comme ça, puis tu mets un peu d'eau, c'est un composé, un peu d'éthanol, c'est un composé, un peu de saccharose, c'est un composé. Un peu de polyphénol, c'est un composé. Et puis, alors, voilà les notes. Donc, les voilà, les molécules. Hein, l'eau, l'acide tartrique, très, très bon, l'acide tartrique, délicieux. Le glucose, superbe. Le glycérol, il faut faire un peu attention. Les polyphénols, on dit que c'est bon pour la santé, c'est des antioxydants. Bon, antioxydants, c'est bon pour la santé, alors voyons. L'éthanol, alors ça c'est très bon, tout le monde le sait. Alors celui-là fait peur, mais en gros c'est le molécule de sucre. Il y en a d'autres, ça c'est dans le caramel. Et puis il y en a d'autres, 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 et voilà des notes. Bon, attention, c'est dangereux. Parce que les molécules, il y en a des très toxiques. Hein. Les benzopyrènes des barbecues, par exemple. Il ne faut pas en mettre. Hein. Alors voilà des chefs qui le font déjà. Voilà une carotte à l'acide tartrique. Voilà une sauce entièrement de synthèse. Je suis heureux de vous dire que Jean-Didier Vincent, membre de l'Académie des sciences, qui est l'homme du plaisir, la neurobiologie du plaisir, hier a goûté dans mon assiette cette sauce-là et a dit « Ah, c'est bon !» Alors avec ça, Jean-Didier Vincent, hein, qui travaille avec Jean-Marie Amat, qui est un cuisinier depuis longtemps, hein. Alors, ne me croyez pas, goûtez-le chez Michel Saran. Du coup, je vais passer sur la construction des plats. mais c'est des choses essentielles. Vous voyez, vous prenez un petit bout de saumon fumé, vous mettez une gelée de pamplemousse par-dessus. Quand vous le mettez sur votre langue, à gauche, vous allez sentir la saveur du saumon, mais l'odeur du pamplemousse. Si vous le retournez, vous sentirez la saveur du pamplemousse, mais l'odeur du saumon. Et les chefs, dans le fond, ils savent que selon la façon dont on construit, on tout change. L'expérience, elle est faite. On peut la faire avec du jambon et du. Et, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est. Avec quoi? Jambon. Un truc qui ne coûte pas cher. Un jambon et de la tomate. Voilà. Alors, du coup, il y a un grand ancien qui avait dit ça, Carême. Hein, c'est autre chose qu'Escoffier, ça. Et puis, voilà, on pourrait construire du moderne. Parce que l'ancien, c'est pas mal, mais ce n'est plus l'époque. Et alors, voilà, ce plat, regardez-le bien. Vous voyez qu'il est construit. Et quand c'est construit, ça dit « j'ai construit pour toi, donc je t'aime ». Et c'est ça la cuisine. Mais une fois qu'on l'a compris, on ne cuisine plus de la même façon. Et peut-être que des intellectuels sont là, non pas pour aller se cacher derrière des sacs de sable au Kosovo, mais pour précisément dire « réfléchissons à la construction hein. ». Bon, alors, ça, c'est pas construit. Ça, c'est moche. Hein. C'est moche. Bon, c'est marron. Bah ça, c'est dégueulasse, c'est marron.
Est-ce que c'était bon?
J'avais l'impression, j'étais à Cuba, et là, je suis passé dans un restaurant, et à la louche, ils mettaient le riz, platch. Et puis ensuite, les haricots, platch. Là, j'avais la même impression. Hein.
D'accord.
Là, c'est un poisson construit. Non, mais en fait, nous sommes bien du même avis, parce que chez lui, un jour, j'ai mangé des échalotes taillé dans un... Alors, c'était quoi le...
Alors, en fait, non, c'est pas ça. Il a mangé un yaourt à la truffe, mais pour lui, il a mangé les échalotes. Non, déjà, la démarche intellectuelle n'est pas la même. Tout le monde me dit, votre yaourt à la truffe. Et toi, tu me dis, tes échalotes.
Ben parce qu'il y avait des échalotes dedans, quand même.
Oui, mais il y avait aussi d'autres choses. Et toi, c'est le processus de l'échalote confite qui a retenu ton attention. Non, déjà, il y a une gymnastique intellectuelle qui est différente du commun des mortels, qui vient et qui va prendre un yaourt.
Non, mais tu dis ça, mais en vrai, cette échalote est la plus belle échalote. Je déteste la cuisine pour riches, donc déjà la truffe, j'en veux plus. En revanche, une modeste échalote qui était taillée, combien de millimètres tu l'avais taillée?
Elle faisait un petit millimètre.
Tout petit. Mais elle était taillée en biais. Et alors, ce qui était extraordinaire, tu l'avais passée au sel?
Non.
Non, pas passée au sel. Direct.
Directement dans une réduite, dans une réduction de Porto. Enfin, ouais. J'ai fait la réduction de Porto avec les échalotes dedans jusqu'à. Totale évaporation.
Et alors, elle était taillée en biais. Et sous la dent, ça tournait. Parce que comme c'est, vous voyez, un truc en biais, comme ça, un petit dé.
C'est ce qu'on me dit tous les jours.
Non, mais ça tournait. Et du coup, ça faisait un petit crissement. C'est-à-dire qu'au lieu de bouffer une échalote qui serait écrasée comme un édredon, plotch, là, il y avait un petit crissement. Et bien, du coup, bien sûr, il y avait le yaourt, le machin, etc. Mais l'intelligence... faire du yaourt avec la truffe, même moi, je peux faire du yaourt avec la truffe, en étant un peu con. En revanche... être capable de faire... Mais parce qu'il faut avoir l'envie de le tailler d'une certaine façon. Sinon, on ne taille pas comme ça.
Je ne sais pas si le biais que tu as perçu sous la langue et entre les dents était calculé, c'est à peu près comme le nombre d'or. Quoi. Je ne taille pas les échalotes avec des appareils spécifiques pour avoir un angle précis pour avoir ce résultat.
Mais tu veux ce résultat quand même.
Oui, je veux ce résultat, mais bon, tu vas nous expliquer pourquoi donc, il y avait ce petit crissement. Et donc, visiblement, c'est sur un angle par rapport au fait que ça roule, etc. Enfin, c'est déjà une démarche. C'était que le début du repas, en plus. Il me l'a mangé 6 plats et un dessert, donc vous imaginez.
Enfin bref, quand c'est construit, ça dit je t'aime. Et, quand, et on a envie d'être aimé. Ça, ça dit je t'aime.
Hein. Il, ça, il va falloir conclure pour laisser la parole aux jeunes qui meurent d'impatience.
Concluons en disant que vous êtes invité au cours, ça va. Et puis des images, voilà, c'est construit, ça dit je t'aime. Tiens, qu'est-ce qu'on offre à sa promise? Un écrin dans lequel il y a un bijou. Hein. Ça dit je t'aime, ça, non? Ça dit pas je t'aime? Oh, ça c'est construit, allez, ça c'est construit, ça c'est construit, ça c'est construit, ça c'est un plat, quand on a fini de manger le plat, en dessous il y en a un autre, c'est rigolo ça. Ça c'est une choucroute, tiens, c'est le cassoulet du futur. Hein. Ça c'est par un copain japonais qui fait des choses merveilleuses. Et alors ça, c'est un truc très intéressant, là, vous savez que la peinture abstraite, c'est qu'on ne reconnaît pas, il y a des points, des lignes, des formes, ça fait la peinture abstraite, c'est pas neuf, hein, 1920, donc c'est pas neuf. En cuisine, il n'y avait pas de cuisine abstraite. Donc j'ai invité Pierre Gagnère, et Pierre a fait un plat abstrait. C'est-à-dire qu'on le mange, on dit « Oh, c'est bon !» et on ne reconnaît rien. Alors que dedans, il y a trois ingrédients. Sauf erreur, c'est martini, grenadine et navet. Mais on ne peut pas reconnaître. Alors c'est merveilleux, ça.
Bon.
Alors
voilà. Hervé, donc, merci.
Donc vous avez mon email, n'hésitez pas. Hein.
Merci beaucoup à tous les deux. Mais j'aimerais quand même, le temps que mes collègues s'installent dans les coursives avec les micros, laisser un tout petit peu plus de temps de parole à Michel, parce que c'est pas, il faut prendre c'est évident de prendre sa place hein, sur cette tribune. Comme ça, à chaud, comment est-ce que vous réagissez à tout ce que vient de dire Hervé? On a vu qu'il y avait... par certains moments, de l'attirance, on a vu, voilà, des outils, des technologies qui peuvent aider, et en même temps, une certaine peur que le goût ne soit pas présent, qu'on touche globalement comme ça, prendre les questions.
C'est très intéressant, et la mise en commun des expertises est forcément positive. Ce qui me fait peur, c'est non pas le scientifique qui veut se substituer au cuisinier, mais le cuisinier qui va vouloir se substituer au scientifique, et quelquefois ça fait des dégâts. Parce que ce qui nous a montré, je ne suis pas persuadé que nous ayons en main tous les outils et toute la connaissance nécessaire pour travailler sur cette chimie et sur cette transformation. Mais si on vient nous expliquer, on a besoin, la cuisine a besoin d'évoluer, la science est au service de la cuisine, mais ce n'est pas un ingrédient, je crois, enfin moi je le vis comme ça. Et moi, ce que je cherche à faire, effectivement, c'est donner des émotions, du plaisir, de l'amour. Le travail de cuisinier est un fabuleux travail de séduction. Et alors que je pense que la science, avant tout, séduit les scientifiques. Mais je suis séduit par sa démonstration aussi. Comment ne pas l'être? Parce que c'est un scientifique séducteur avant tout. Et que souvent, la science peut paraître hermétique et ça fait flipper. Là, non, on a envie d'y aller, on a envie d'utiliser, on a envie d'aller voir et on a envie de continuer à l'écouter et aller dans son chemin. Voilà, donc ça, c'est différent. Mais franchement, j'ai vu des cuisiniers qui se prenaient pour des scientifiques qui étaient... J'ai pas été séduit, pas du tout, ni par leur discours scientifique, ni par leurs assiettes, tout simplement. Voilà.
Donc, est-ce qu'il y a déjà des questions? Je vois pas mes collègues. Il y a quelqu'un là-haut? Une première question?
Quand est-ce qu'on mange?
C'est vrai qu'après après Hervé et Michel, c'est pas forcément très simple de... Bah, c'est sûr qu'ici, il y a des élèves de première, de terminale, des BTS, des élèves ingénieurs.
Est-ce que je peux poser une question à Michel?
Et toutes les questions seront différentes et il n'y a aucune question stupide, quoi. Vous pouvez poser des questions aux scientifiques ou aux cuisiniers sur ce qui a été dit que vous n'avez pas compris. Et il y a... Allez-y, tout est... Hervé,
ouais, j'ai une question à Michel, c'est comment est-ce qu'on fait pour donner de l'émotion?
Comment on fait pour donner de l'émotion? Tu le sais aussi bien que moi. Tu as donné de l'émotion à travers le discours que tu as employé, de la façon, cette façon tellement évidente de raconter tes histoires qui, au départ, quand même, sont pas évidentes. Enfin, pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça. Bon, l'émotion, c'est quand je fais la cuisine. Avant tout, j'essaie de raconter ma vie, Parce que c'est ça, c'est un moyen d'expression aussi, la cuisine. On raconte un petit peu sa culture, son passé, ses voyages, etc., sa famille, ses enfants, mes filles qui mangent des yaourts, et ça fait des yaourts à la truffe avec des échalotes comme ça qui crissent sous la dent.
Ah, c'est pour ça.
C'est vrai, oui, bien sûr, c'est ça. Et donc, ça, c'est le plaisir immédiat que l'on peut avoir. Et quelque part, il va y avoir oui, une sensation nouvelle qui crée de l'émotion. Est-ce qu'il y a... derrière une explication scientifique à l'émotion, je ne sais pas, peut-être, certainement, mais tout le monde ne crée pas de l'émotion. C'est un peu ce qu'on disait au départ, la différence entre l'artisan et l'artiste, mais on n'a aucune certitude par rapport à ça. Et puis, le même plat va créer de l'émotion chez certaines personnes et pas d'autres, en fonction aussi de leur vécu, de leur passé, etc. C'est compliqué quand même. Alors, pourquoi... Pourquoi je préfère aller blonde ou brune ou vice-versa?
Ah bon, ouais.
Je sais
scoop,
pas.
À scoop.
Non. Il
n'y a personne encore pour se dévouer, là? La première, c'est la plus dure, après. Parce que ça va passer très, très vite. Après, vous n'aurez plus le temps de poser toutes les questions. Moi, j'ai peut-être une question, alors, à tous les deux. Quelles sont un peu les limites, en fait du passage du labo à la cuisine, quelles sont les limites? Est-ce qu'il y a des limites et où sont-elles?
La limite du danger, quand même, ça compte. Faut pas. Mais il y a une vraie raison. La machine que j'ai montrée là, qui fait les plats nouveaux là. Je sais pas si tout le monde connaît l'histoire de Jacquard. Jacquard, à Lyon, il y avait les métiers à tisser pour faire la soie. Et les enfants travaillaient à l'époque. Ils n'allaient pas à l'école, ils travaillaient. Ils travaillaient dur, il fallait tourner la machine toute la journée. Et donc, ils restaient incultes, puisqu'ils n'allaient pas à l'école. Et ils étaient fatigués, ils étaient malingres, donc ils étaient en mauvaise santé. Jacquard voit ça et se dit, je vais inventer un métier à tisser pour supprimer le travail des enfants. Ça a foutu Lyon en déroute, donc, parce qu'il y avait des machines. Et donc, les soyeux, c'est-à-dire les gens qui faisaient de la soie, ils ont été au chômage. Donc, quand je dis en rigolant que cette machine, elle peut mettre les cuisiniers au chômage, les cuisiniers artisans, évidemment, pas les cuisiniers artistes, il y a une vraie limite, là. Est-ce qu'on a le droit de compromettre l'avenir de la cuisine française en mettant les cuisiniers au chômage, par exemple? C'est une question terrible, hein. Donc, voilà une limite.
En même temps, le jour où il est venu, parce qu'il est venu qu'une fois, mais j'ai appris énormément de choses... Je me disais, quand tu cuis les légumes, nous, quand on cuit les légumes, comme on dit à l'anglaise, on les met dans de l'eau salée, et puis quand on estime que c'est cuit, il faut vite arrêter la cuisson, on met ces légumes dans l'eau glacée pour ça. Je me dis, oui, mais si t'arrêtes ta casserole avant, ça va continuer doucement, il suffit de caler le temps, et comme ça, t'enlèves des manipulations. Donc c'est vrai que ça apporte aussi beaucoup. Donc, toujours pareil, l'utilisation qui en sera faite... Non, je ne sais pas, les limites, je pense à l'homme à donner ses limites par rapport à ça, mais après, je pense qu'ils ont encore, les scientifiques vont certainement nous apporter encore beaucoup, non, je ne vois pas de limites.
Non, mais en fait, moi, je suis, en réfléchissant, en t'entendant, et j'interprétais ma façon de dire ce que tu aurais dit, c'est ce que tu as dit, la limite, c'est l'éthique, c'est-à-dire la morale. Imaginons qu'on soit physiologiste. On peut décider ou pas d'ouvrir un bonhomme vivant pour voir comment ça marche, mais ce n'est pas éthique, donc on ne le fait pas. Et peut-être que la science, c'est bien pareil, non? Tout à fait? Bon. Ah, ça a été fait, un bonhomme vivant.
Sylvie, il y a deux questions. Il y en a une.
Non, mais il y a Bernard qui est en train de...
Il y a une question en haut et une question ici.
Question en bas.
Je ne sais pas si on nous entend, c'est bon?
Oui, on vous entend, oui.
On va commencer par en haut.
Allez, je te viens.
Ah oui, là-haut.
Bonjour à vous, messieurs, d'abord. Merci d'être là pour nous. Ensuite, ma question s'adressait à Michel Saran. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire passer autant d'émotions, comme on parlait tout à l'heure, à travers de la cuisine moléculaire, autant que par la cuisine traditionnelle?
Je ne me pose pas la question comme ça. L'émotion... je vais la chercher à travers mon vécu, à travers ce que je suis. Et puis, comme je disais tout à l'heure, vous l'apercevrez, vous, en fonction de ce que vous êtes aussi. La cuisine moléculaire, elle va peut-être m'apporter... elle va m'aider dans ma réflexion, elle va apporter des solutions à des problèmes que je peux me poser, à certaines manipulations ou à certains produits que je n'arrive pas à finaliser. Je sais que cette cuisine moléculaire peut m'apporter quelque chose. Par contre, vouloir en faire l'élément central de ma cuisine, je pense que ce serait une grande faute parce que ça, c'est pas ma vie. Je ne perçois pas la cuisine comme ça. Je vais prendre un process bien déterminé dans la cuisine moléculaire qui va m'interpeller et qui va me plaire aussi, qui va me séduire, et je vais essayer de l'accommoder à ma sauce. Mais de là à dire je ne veux faire, et c'est un peu ce que je reproche aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même des cuisiniers qui s'engouffrent dans la cuisine moléculaire de façon un peu trop systématique et avec trop de certitude. Quelquefois, ils en perdent un petit peu leur discours de base et ils ne sont plus en accord avec eux-mêmes et ça sonne faux. Et quand ça sonne faux, la cuisine, c'est terrible.
Pour répondre, il y a un chef qui s'appelle Denis Martin en Suisse qui un jour a vu la neige tomber. Et la première neige qui tombe, vous savez, elle s'en va très, très facilement, très vite. Et il s'est dit, je voudrais faire ça en plat. Ben, quand vous prenez de l'azote liquide pour faire une glace, vous avez un sorbet ou un sorbet, vous avez un sorbet qui a un peu ce truc-là. Donc il a fait un sorbet au citron, à l'azote liquide, parce qu'il voulait donner ce sentiment merveilleux pour un Suisse, hein, parce que les Alsaciens, la première neige qui tombe, ils s'en foutent. Ce qu'ils préfèrent, c'est la choucroute, hein, bien évidemment. Et donc il a réussi à donner. Mais le lendemain, il faisait autre chose. Donc c'est un moyen, comme tu dis, c'est un moyen, c'est pas une fin, ça peut pas être une fin. D'ailleurs, pourquoi la cuillère ou le couteau serait-il une fin ? C'est des objets qui nous permettent de faire quelque chose, non ? On est d'accord avec ça ?
Oui, on est d'accord. Ça n'empêche qu'on peut effectivement réfléchir là-dessus. Des fois, je peste de voir que la science n'apporte pas plus de solutions dans des domaines... je sais pas, moi je travaille par exemple dans le catering aérien. Je trouve qu'on ne sait jamais... vous... nous aidez pas. Non, dire qu'au niveau technologique, il y a un manque. On n'a jamais réfléchi à comment améliorer des outils à bord pour que la cuisine soit meilleure. Alors, ce que tu fais un peu quand même.
Alors, réponse. C'est pas à la science de faire ça. La science doit produire des connaissances. En revanche, c'est à la technologie.
Tout à fait.
Et c'est pour ça que. Alors, la technologie, c'est, on dit aussi ingénierie, ou on dit aussi. Donc, c'est le métier des ingénieurs. C'est aux ingénieurs d'aller prendre en science des choses pour les emmener en technique. Ce n'est pas à la science de le faire, je ne crois pas. La science peut aussi le faire. Souvent, d'ailleurs, je travaille avec Pierre Gagnère, mais quand je vais chez Pierre Gagnère pour travailler avec lui, j'ai un peu honte. C'est-à-dire, c'est comme si j'allais au bistrot avec des copains. Je me dis, tiens, Marion Guilloux, présidente directrice générale de l'INRA, si elle savait que j'étais chez Pierre ce matin, elle me dirait, tu ferais mieux d'aller au labo. Parce que c'est là qu'on fait de la science, ce n'est pas chez Pierre. Alors du coup, la relation est compliquée. Mais c'est vrai, mais c'est à la technologie de le faire. Donc il faut que
la technologie s'appuie sur la science.
Oui. La science travaille. Ouais. Puis il y a des gens qui se font de la technologie, qui font le transfert. Donc c'est le métier qu'ils font bien parce qu'ils ont appris à le faire. Moi, je suis nul en technologie.
Bonjour. C'est une question pour Monsieur Sarran. C'était pour savoir si vous pensez qu'à la brasserie du stade, les joueurs du stade vont accepter de manger de la viande synthétique ou pas.
Artificiel, pas synthétique.
Ah, je sais pas, ou des oranges synthétiques, tout ça. Ou...
Artificiel, pas synthétique.
Excusez-moi, monsieur.
Je pense que j'essaierai pas.
Oh, allez, un petit effort.
Non.
Et si on l'appelait autrement ? Si les oranges artificielles, on les appelait des conglomèles. C'est joli, conglomèles, non ?
Ouais, mais ça nourrit pas, peut-être.
Ça nourrit pareil. C'est pareil, c'est du jus d'orange.
C'est une enveloppe. Donc après, c'est une. Les joueurs du stade, c'est pareil. Ils ont une carapace très robuste, mais ils sont pleins de sensibilité. Ils sont. Ça fait réagir quand même. Ils sont ouverts. Ils mangent autre chose que. C'est vrai qu'on les voit. Quand je suis arrivé à la brasserie du stade, il y a, je sais pas, 6 ans maintenant. Je me suis dit, bon là, il ne faut pas se tromper, il faut faire une cuisine solide, du robuste, parce que sinon, s'ils m'attrapent, enfin, peut-être qu'il y avait un peu de danger quand même, donc j'ai essayé de leur faire une cuisine, la cuisine que je pensais adaptée à l'endroit, parce qu'il y a ça aussi, chaque endroit a sa cuisine. que je fasse la cuisine, moi, ici à Toulouse, dans mon restaurant gastronomique, à la brasserie, ou que j'aille la faire demain, en Afghanistan, je ne ferai pas la même cuisine. Parce qu'il doit y avoir aussi une communication avec le lieu, etc. Mais je me suis aperçu quand même que je me trompais, parce qu'ils aiment d'abord, à Toulouse, il y a des joueurs qui viennent un petit peu partout. Lambolé vient de la région parisienne, Bouillou aussi, Keller, ils viennent de... Bon, donc ils ont aussi une ouverture d'esprit. Ils viennent manger chez moi, ils aiment la cuisine que je peux leur faire. Je ne fais pas de la cuisine moléculaire, mais c'est quand même... Je peux utiliser, comme je disais tout à l'heure, quelques procédés de la cuisine moléculaire. Et ils les acceptent, ils sont tout à fait permis.
Merci.
Bon, ben, pose ta question, Valérie. Bon, moi, si... Oui.
Là-haut, à droite, on ne vous voit pas. Allô?
Il y a quelqu'un là-haut? Bon. Moi, j'ai deux questions, mais à condition qui s'adressent à Hervétis, mais à condition qu'ils répondent court. La première, c'est cuisine moléculaire. Vous n'arrêtez pas de parler du goût, du beau. Cuisine moléculaire, c'est quand même un nom affreux et qui, justement, attise un peu les médias contre ce type de cuisine, souvent à tort. Et la deuxième question, donc, est-ce qu'on ne peut pas inventer un autre nom? Et la deuxième question, c'est est-ce que finalement ce type de science et de technologie pourrait pas aussi aller vers la nutrition, c'est-à-dire comment aider à mieux exprimer les vitamines, à ce que des éléments, des nutriments qui sont bons pour la santé, par exemple, puissent s'exprimer au mieux. Voilà.
Alors, deux questions. Alors, cuisine moléculaire, désolé, mais c'est pas de ma faute. Nous, on a introduit la gastronomie moléculaire et dans le temps, ça s'appelait gastronomie moléculaire et physique. Bon, c'était un peu long, mais ça suffisait. Simplement, dans les années 90, il y a des journalistes qui ont dit que Ferran Adrià faisait de la gastronomie moléculaire. Or, c'est pas vrai parce qu'il fait pas de science.
On ne sait pas qui est Ferran Adrià.
Ah, Ferran Adrià, mais si, je l'ai présenté. C'est le chef à Barcelone qui est sur toutes les télés. Donc, Ferran Adrià ne fait pas de science. Les cuisiniers ne font pas de science, ils font de la cuisine. Donc, j'ai dit, ah non, ils font pas de science. Il faut donc un autre nom. Et puis, pris d'une inspiration subite, je me suis dit, allez, ils font un truc qui est apparenté à la gastronomie moléculaire, mais ils font de la cuisine, donc cuisine moléculaire. C'est une expression, alors peu importe. De toute façon, le but, c'est que cette cuisine moléculaire meure le plus vite possible, parce qu'une fois qu'on aura en cuisine les filtres, l'azote liquide, les machins, on passera à autre chose. Donc vivement qu'on passe à autre chose, mais en étant équipé... En s'étant débarrassé des fouets, des casseroles, des trucs comme ça, qui sont des outils du Moyen-Âge. Bon. Alors, ça, c'est pour la première question. La deuxième question,
c'est sur l'expression. C'est... Oui, des...
Pardon ?
Sur les nutriments. Et...
Oui, les nutriments. Alors, les nutriments, la science n'est pas une activité morale en soi. C'est l'application de la science qui détermine. Vous voyez, on découvre la structure de l'atome avec un noyau, etc. Avec ça, on peut faire Hiroshima, une bombe atomique, ou bien de l'électricité, nucléaire civil. Ce n'est pas la science qui décide de faire Hiroshima ou le nucléaire civil, c'est la technologie. Donc la gastronomie moléculaire, elle n'a pas à s'intéresser aux vitamines en particulier, elle a à s'intéresser à produire des connaissances sur les transformations culinaires, puisque c'est ça pour la gastronomie moléculaire. Et après, il y a des gens qui s'appellent les nutritionnistes, les diététiciens, les ce qu'on veut, qui feront usage de ces connaissances pour avoir des vitamines. Méfions-nous quand même des vitamines. Il y a une étude européenne avec supplémentation de vitamine E, on l'a arrêté parce que ça faisait plus de cancer. Alors, les vitamines, c'est très bien. Il y en a certaines que la vitamine C, quand on en prend trop, on la pisse, c'est pas grave. Mais il y en a d'autres, il faut faire attention. C'est pas c'est des molécules, ces trucs-là. Hein. Il y en a... Et vous rappelez, Paracels, qui était un pharmacien ancien, disait « Rien n'est poison, tout est poison. C'est la dose qui fait que quelque chose n'est pas poison. Même l'eau à haute dose, on crève. »
Une autre question ? Là et après, j'arrive après. Hein.
Je voulais vous demander, tous ces produits chimiques, c'est pas nocif pour la santé à force ? Dedans ?
Lesquels ?
L'azote et...
Alors l'azote, dans l'air ici, 4/5 de l'air c'est de l'azote. Et l'azote liquide, on le produit en comprimant de l'air. Alors évidemment, c'est à moins... Si vous mettez votre main, elle se congèle. Donc vous donnez une pichenette, ça tombe. Mais vous n'êtes pas forcé de mettre la main dans l'azote liquide non plus. Hein. C'est comme le couteau. Hein. Le couteau, on n'est pas forcé de se l'enfoncer dans le ventre. Hein. On peut le tenir différemment. Alors après, le sucre, parce que vous n'avez pas peur du sucre de table, ce sucre-là. Mais il faut, je ne sais pas si vous savez comment c'est produit. On râpe des betteraves, on a une espèce de truc un peu dégueulasse, quoi, une espèce de purée un peu dégueulasse, et on verse des tonnes de chaux, la chaux, hein, pour faire sédimenter les particules et récupérer le jus qui contient le sucre. Des tonnes de chaux. Alors après, on raffine, on fait des trucs, mais là-dedans, pour empêcher que ça prenne en bloc, on met des agents antimotants. Personne ne pose la question de savoir si c'est bon pour la santé ou pas, parce qu'on aime le sucre, mais c'est faux cul. Hein. Le chocolat, c'est du gras et du sucre, hein, en vrai. Alors on dit, je voudrais être en bonne santé, etc. Mais enfin, le chocolat, c'est du gras et du sucre. Et puis on ne demande pas si c'est des acides gras trans ou des acides gras cis ou des insaturés ou des pas insaturés. Hein. On s'en fout complètement. Il est 4 heures, on veut manger du chocolat, on mange, et puis après, on va se préoccuper de détails genre... Non. Mais évidemment que c'est dangereux à haute dose, tout est dangereux, j'ai répondu. Rien n'est poison, tout est poison, c'est la dose qui fait que quelque chose n'est pas poison. Michel, tu voulais...
Oui, moi je me souviens quand même d'une époque où l'agroalimentaire était vachement critiqué, les produits, les colorants, les machins, tous ces trucs-là. Bon, il y avait une vérité derrière, c'est-à-dire qu'il y avait
des dangers. Oui, parfois.
Bon, alors, c'est bien sûr, c'est les techniques qui sont venues, c'est pas les scientifiques qui sont incriminés. Quoi qu'il en soit, vous avez su isoler tel et tel produit, et sachant qu'en le combinant avec d'autres, ben, bon, ça pouvait apporter de la couleur, de l'acidité, etc., etc. Et puis un jour, on nous dit, oh là là, c'est dangereux. On a eu ce discours il n'y a pas très longtemps. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, certains cuisiniers vont rechercher ces produits et qu'on voit ressurgir des conservateurs, des édulcorants, des machins. Alors, moi, derrière, ça me fait un petit peu peur. Je ne sais pas. Je comprends un peu sa question. On se dit, mais est-ce qu'on peut tout utiliser?
Alors, tu réponds. Non. La noix muscade contient de la myristicine. La noix muscade, hein. Une noix muscade contient assez de myristicine pour tuer un bonhomme.
Et voilà. Et oui, mais comment ça, cette connaissance-là, on ne l'a pas. Alors c'est vrai que quand même, quelque part, la vulgarisation de la science est importante pour qu'elle vienne dans nos petits foyers et dans nos cuisines nous apprendre ça, que la noix de muscade
peut tuer un petit. C'est pour ça que je suis venu à Toulouse aujourd'hui. Hein. C'est pour dire que le barbecue, il y a des benzopyrènes, que dans la myristicine, il y a dans la noix muscade, la myristicine. Un truc très étonnant, en ce moment, on a une étude au labo sur l'estragon. L'estragon contient une huile essentielle, c'est-à-dire il y a 1% d'une feuille d'estragon, c'est l'huile essentielle. Et il y a 50% de cette huile essentielle, c'est une molécule qui s'appelle le méthylchavicol, qu'on dit aussi estragol. Cette molécule est considérée comme tératogène, donc elle fait des malformations chez les nouveau-nés, et cancérogène à n'importe quelle dose. Bon. Est-ce qu'on peut encore manger de l'estragon? Voilà la vraie question. Mais la réponse, elle est donnée. C'est-à-dire que si tu prends le méthylchavicol, tu le manges, tu crèves. Enfin, Maintenant, si tu prends ton méthylchavicol et que tu le mets dans une petite boîte qui s'appelle une feuille d'estragon, tu le manges, est-ce qu'il est libéré? Eh bien, je n'en sais rien. Et c'est pour ça qu'on fait l'étude. Donc, aujourd'hui, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas penser, quand on a entre 10 et 20 ans, il ne faut pas penser que la science a déjà tout trouvé. On sait très, 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 très peu de choses. Il y a beaucoup, beaucoup à chercher. Et pour ça, il faut des gens qui travaillent. Voilà, il faut des gens qui travaillent. Voilà, ouais. Bah, on répondra à la question le plus vite possible. Et je crois que c'est urgent.
Oui. C'est gentil.
D'accord. Là-haut?
Bonjour. Oui, vous m'entendez?
Oui, très bien.
Oui, donc je voulais poser une question un peu à tous les deux. Est-ce qu'à travers cette cuisine moléculaire, on ne va pas perdre un peu en subtilité à l'image du MP3 pour la musique, en faisant de la cuisine à travers de mélanges moléculaires qui ne reflètent pas l'intégralité des arômes naturels? Puisque bon, en mélangeant des molécules, on sait bien qu'on ne peut pas atteindre la complexité qu'a réussi à produire la nature.
Je vais répondre très rapidement pour moi. On pourrait reproduire du vin, c'est-à-dire vous prenez de l'eau, de l'éthanol, les polyphénols, etc. Vous y mettrez des trucs, vous ferez du vin. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens d'abord socialement et économiquement. Et même si vous prenez du Aubryon, par exemple, sur mon bureau, j'ai un petit flacon de les molécules odorantes du Aubryon 85 qui m'ont été données par... C'est entièrement synthétique. Ça m'a été donné par Roman Kaiser, qui est un grand nez. De temps en temps, quand je travaille, je fais mes calculs, j'ouvre mon flacon, je sens le Haut-Brion 85, je suis heureux. Bon. Ça n'a pas de sens de vouloir refaire du Haut-Brion 85 chimiquement, parce qu'une photocopie de la Joconde, c'est jamais la Joconde. Alors faisons autre chose, faisons des choses qu'on n'a jamais faites, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà pour ma partie. Michel ?
Je te rejoins complètement, c'est vrai qu'il n'y a aucun intérêt à faire un Haut-Brion. Enfin, en plus, je pense qu'il a... Peut-être que la science pourrait se substituer à tout l'environnement, à toute la nature, hein, ou à recréer tous les millésimes de Haut-Brion, tous les millésimes de Lafitte, toutes les qualités de viande, etc. À part qu'il faudrait des millions et des millions de chercheurs pour travailler sur chaque molécule, etc. et détailler. Bon, finalement, ce côté aussi imprévisible a vachement de charme et... Bon, une année exceptionnelle, ça fait vibrer tellement de gens, ça crée tellement d'émotions dans le domaine viticole. Parce qu'il y a le côté recherche aussi du viticulteur, la recherche, toujours faire mieux chez les maraîchers. Et bon, je ne dis pas que c'est plus noble, mais ça a beaucoup de charme aussi. Donc, je ne crois pas que... Alors, par rapport au MP3, moi, je pensais que le MP3, c'était bien quand même.
Michel, vous pouvez tenir votre micro un peu plus bas, s'il vous plaît. Merci. Une autre question, ça... Grésil.
Ça serait pour savoir si chez nous, on pourrait faire la cuisine moléculaire sans problème. Parce que c'est plus dans les labos qu'au fait, ça.
Non, dans les laboratoires, on fait de la science. Donc on a... Dans mon labo, on n'a pas de cuisine. Vous avez vu les réactions. Les réacteurs, c'est pas des casseroles. Le but, quand on fait une thèse sur le bouillon de carottes, sur la couleur verte des haricots, c'est pas de faire cuire des haricots ni de faire des bouillons de carottes, c'est de comprendre... Moi, dans la thèse des bouillons de carottes, il y avait deux objectifs. C'est un, qu'est-ce qui sort d'une carotte et qui passe dans l'eau quand on fait cuire des carottes? Et surtout, comment ça sort? Alors, je crois que maintenant, je sais comment ça sort. Puis, la deuxième question, c'est, je voulais apprendre à être capable d'utiliser la résonance magnétique nucléaire pour étudier un bouillon. C'est-à-dire, je prends un bouillon, je le mets dans un tube, crac, je sais ce que c'est. Donc, il n'y a pas du tout de cuisine.
Hervé, je pense quand même qu'il va falloir clarifier les choses. Je pense qu'il y a une confusion maintenant dans la tête peut-être des jeunes. Parce que d'un côté, vous dites, voilà, je faisais mes cocktails au labo, je fais mes machins, et vous montrez...
C'est pas au labo, j'ai pas dit que c'était au labo.
Ah, c'était pas au labo.
On les a fait dans une foire européenne de technologie.
Voilà. Et après, vous dites, il faut mettre tous les fouets, tout ça à la poubelle, ce sont des outils archaïques.
Mais je
vous dis juste que peut-être il peut y avoir des confusions.
Alors d'abord, je voudrais rassurer un peu, parce que j'étais provo exprès.
Oui, mais
bon. Je voudrais rassurer. Quand il y a eu Pierre Boulez ou Olivier Messiaen ou les Beatles ou les Rolling Stones ou Solferino, ça a empêché personne d'écouter Bach ou Mozart. C'est-à-dire que dans le temps de Bach, Jean-Sébastien Bach, qui faisait une musique très belle, imaginez que vous ayez du Bach toute la journée, toute l'année, vous emmerdez. Alors il y a une espèce de hippie qui s'est appelé Mozart, hein, qui est arrivé. Alors Mozart, il sautait, il pissait partout. Enfin, il avait un syndrome frontal, c'est une espèce de maladie mentale. Mais il était génial, et il a fait une musique qui s'est ajoutée à celle de Bach. Donc du temps de Mozart, on disait, oh, Mozart, c'est un hippie. Mais après Mozart, on a eu Bach et Mozart. Et puis ensuite, on a eu Bach, Mozart et Beethoven. Puis ensuite, on a eu Bach, Mozart, Beethoven et Debussy. Donc aujourd'hui, il y a la cuisine moléculaire. Demain, il y aura autre chose qui viendra, une autre mode. Donc on aura la cuisine du Moyen-Âge, la cuisine des Romains, la cuisine bourgeoise, la cuisine classique, la cuisine moderne, comme il disait dans les années 70, la cuisine moléculaire, et puis encore autre chose, il va arriver autre chose. Et la question de la science, c'est qu'est-ce qui peut arriver et pourquoi, d'une certaine façon.
Mais ce n'était pas la question. Hein.
Mais
je suis là-haut.
Elle est là, toujours là-haut, Valérie.
Par rapport à la question de...
Je relaye la question du jeune homme.
Oui.
Il est de l'école hôtelière, en plus. Donc, tout ce que vous avez indiqué, est-ce que lui, chez lui, il peut...
Oui,
appliquer des éléments.
Oui.
Alors là, cette fois, je vous demande de développer un peu plus.
Par exemple, vous avez vu, à un moment, il y avait du foie gras, du chocolat chantilly. Quand vous faites une mousse au chocolat, jusqu'à présent, vous prenez du blanc d'œuf, vous le faites mousser, et ensuite vous mettez du chocolat dedans. Ça s'appelle donc une mousse au chocolat. En 1995, j'ai fait de la technologie, non pas de la science, parce que j'ai le droit quand même un peu. Et ce jour-là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, quand on fouette de la crème, ça fait de la crème fouettée. Et la crème fouettée, c'est une mousse. Donc je me suis dit, la crème, c'est une émulsion, c'est-à-dire du gras dans l'eau. Prenons du chocolat, c'est du gras mettons-le dans l'eau. Donc en pratique, vous prenez une casserole, vous prenez un verre de jus d'orange, c'est de l'eau qui a du goût, mais c'est de l'eau, ou du thé ou du café. Vous mettez 225 g de chocolat à croquer, vous chauffez, vous faites une émulsion de chocolat. Maintenant, vous posez cette casserole sur des glaçons, vous fouettez, ça se met à mousser et à faire une texture comme une chantilly. Vous avez un chocolat chantilly. C'est une nouvelle méthode. Appelons ça cuisine moléculaire pour simplifier. Et donc, vous voyez que ça, c'est pas une question d'argent. C'est juste une question de j'essaye de comprendre, de faire quelque chose et je le fais. Donc, oui.
Michel ?
Oui, d'autre part, on parlait de Ferrand Adrià, dont ce cuisinier qui est à Rosas, en Espagne, qui est, je crois, un des éléments importants de la cuisine moléculaire. Sa cuisine est tout à fait normale. Et lorsqu'il fait, par exemple, de la sphérification, ça n'utilise pas de matériel spécifique, scientifique. Non, c'est tout à fait faisable et beaucoup de cuisiniers le font.
La sphérification, pour préciser, parce que j'entends la question qui va arriver, c'est les petites billes. On fait des petites billes qui ont comme des œufs de saumon avec une peau et un cœur liquide. Ça se fait très facilement et on peut acheter les produits sur Internet, ça coûte 3 francs 6 sous.
Voilà, et ça, bon, je ne sais pas, c'était un procédé qui était utilisé en pharmacie, hein, je crois, c'est ça, non?
Dans l'industrie, depuis longtemps, oui. Et pas dans la cuisine.
Et pas dans la cuisine. Tout comme, je ne sais pas si on peut dire que c'est lui, mais l'utilisation des bombes à chantilly, mais en version salée, etc., tout ça, tout le monde en fait maintenant. Bon, ce sont des petites choses qui viennent en cuisine. Alors, il y a toujours de l'abus. Il ne faut jamais abuser d'un procédé, mais ça apporte, ça ouvre d'autres horizons. Mais la cuisine moléculaire, de ce que je vois et des cuisiniers que je connais qui l'utilisent, bon, ils ont des cuisines normales.
Est-ce qu'il y a des livres de recettes simples qu'on peut faire à la maison?
Ah oui, il y en a plusieurs qui sont... D'abord, au Futuroscope, donc qui reçoit quand même 1,5 million de personnes par an, ils vendent des petites boîtes où il y a justement les alginates de sodium et puis avec du sel de calcium ou des gélifiants comme agar-agar. Ça coûte, je crois, je sais pas parce que c'est pas moi qui m'en occupe, mais puis je m'en occupe pas, je n'ai rien à vendre. Donc, faut bien le dire, hein, j'ai rien à vendre. C'est ça qui est important. Non, mais c'est important parce que... Non, mais oui, toi aussi. Bien sûr. Mais ils vendent des petites boîtes, je crois que ça vaut 10 euros. Hein. Il y a un petit mode d'emploi et c'est fait pour les enfants de 6 ans. Bon, ben voilà. Tiens, pour répondre encore, avec un fouet et un œuf, si on est un peu malin, on peut faire 1 m3 de blanc en neige avec un seul blanc d'œuf et on en fait une meringue qui s'appelle un cristal de vent. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de matériel, c'est un peu de réflexion.
Prochaine question.
Bonjour, j'avais une question plus sociétale. Vous nous avez parlé beaucoup des chefs cuisiniers tout au long de l'exposé. Y a-t-il des femmes chefs cuisiniers?
Oui, bien sûr. Anne-Sophie Pic, qui a eu 3 étoiles Michelin il n'y a pas très longtemps. Hélène Darroze.
Il y en a quand même beaucoup moins, non?
Oui, il y en a beaucoup moins.
Mais vous avez une explication pour ça?
Moi, mon explication, je ne sais pas si elle est juste, mais je pense que les femmes, pendant longtemps, ont eu cette mission nourricière et ça devenait plus un fardeau qu'autre chose. Donc elles étaient là, il y avait cette transmission de la cuisine, de mère en fille, etc. Et lorsque les femmes ont pu travailler, donc lorsqu'il y a eu ce mouvement et cette libération de la femme, elle a abandonné la cuisine. Dans le passé, c'est vrai que les chefs hommes avaient toujours le côté créatif. Enfin, on parle de Carême, il y a quelques femmes qui ont marqué la cuisine française quand même, comme la mère Brasier, toutes les mères lyonnaises. C'est vrai qu'elles étaient beaucoup moins nombreuses. Aujourd'hui, par contre, il me semble qu'on voit à nouveau, notamment dans les écoles hôtelières, de plus en plus de femmes qui font la cuisine. Il y a un petit peu un retour en arrière.
Cela dit, moi j'ai un témoignage. Il y a une fille merveilleuse qui s'appelle Rachel Edward Stewart qui est venue au labo. Et elle voulait travailler chez Le Doyen. Donc, après son stage, elle travaillait chez Le Doyen. Et au bout de 3 mois, elle était complètement exsangue. Elle n'en pouvait plus parce que c'est un travail de force. C'était un travail de force. De temps en temps, une bassine, il faut se la soulever. J'étais avec des chefs la semaine dernière. Ils avaient des biceps extraordinaires, quoi, des avant-bras. Ces gars étaient forts. Et à mon avis, c'est une faute de la cuisine. C'est-à-dire que l'introduction de nouveaux matériels en cuisine, ça vise aussi que ça ne soit plus un travail de force. Le travail de chef, moi, je le je ne supporte pas d'y penser, parce que ces gens sont debout toute la journée, hein, alors qu'on pourrait travailler assis, pourquoi pas. Il y a du bruit et il fait chaud. J'ai l'impression qu'on aura une cuisine qui sera un peu moderne quand des femmes pourront travailler comme les autres, qui ne fera pas chaud, qui ne fera pas bruyant, et que ça ne sera pas un travail fatigant, quoi. Je déteste l'idée que ça soit fatigant.
Oui, je trouve que tu es un peu dur avec le métier. Il y a quand même eu une évolution importante, notamment par rapport à la chaleur. C'est vrai que nos cuisines aujourd'hui, avec l'apport de technologies nouvelles comme l'induction et autres.
Alors il faut l'induction partout, voilà.
Non, mais c'est vrai que ça a apporté les plafonds filtrants avec induction d'air, qu'on peut avoir une induction d'air climatisée, tout ça, ça apporte du confort. Je n'ai pas l'impression que ce soit très bruyant, j'ai une cuisine très calme. Après, tout ça aussi, c'est des vérités, mais d'une autre époque. Je crois qu'aujourd'hui, les cuisines sont moins bruyantes. Et le côté physique, oui, c'est vrai, nous sommes debout. Ça, c'est, mais moi, je m'aperçois... D'ailleurs, on parlait de Pierre Aganière. Le chef pâtissier de Pierre Aganière est une femme.
Absolument.
Et qui est une petite femme, en plus. Elle est de corpulence, c'est une japonaise. Et elle résiste très bien.
Non, mais je disais que c'était l'idée ancienne qu'il faut changer.
Oui.
Il faudrait de l'induction partout. Parce que, d'abord, rien que pour des questions de durabilité de notre planète, hein, une plaque à gaz ou électrique classique, pas induction... gâche 80% de l'énergie qu'elle utilise. 80% rejetée en chaleur. Donc l'induction, le rendement, c'est 80%. On devrait tous avoir de l'induction. Et si on avait de l'induction, ça coûterait beaucoup moins cher.
Oui, d'accord. Mais la technologie n'est pas encore suffisamment au point. Moi, j'ai travaillé dans des cuisines au Japon où il y avait des super plaques à induction. En France, je n'ai pas encore trouvé ça. Alors ça commence maintenant.
D'accord. Excusez-moi, mais on va prendre encore une question, parce que ça va être bientôt la fin. Donc on finira le débat sur les plaques à induction une autre fois.
Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur les viandes artificielles. J'ai deux petites questions. La première, c'est de savoir si le prix de revient est faible, le coût de ces viandes est faible, et si, en termes de qualité nutritionnelle, c'est les mêmes que pour une vraie viande. Si les deux réponses à ces questions sont oui, est-ce qu'on ne peut pas envisager de quitter le monde du luxe et de la gastronomie des restaurants pour plutôt envisager quelque chose de plus humanitaire qui serait de nourrir les hommes qui ont faim ?
Alors, pardon, pour ce qui est... je déteste l'idée en soi de la cuisine de luxe parce que si je travaille à l'INRA avec un salaire de l'INRA qui est moins que ce que j'avais dans le privé... C'est précisément parce que je me préoccupe des citoyens qui mangent. C'est-à-dire que les bourgeois très riches vont chez des grands chefs, ils ont les moyens, mais nous, on n'a pas forcément les moyens. Non, mais c'est vrai. Quand tu as un menu à 500 euros, tu ne te payes pas 500 euros, parce que je ne sais pas combien tu gagnes, mais ce n'est pas beaucoup. Donc ma question à moi, c'est un peu la même réponse que la mousse au chocolat. C'est-à-dire si on fait un chocolat chantilly et qu'il n'y a pas d'œufs, on économise les œufs. Ça s'appelle de l'économie domestique. Je trouve ça tout à fait dommageable que tout le monde achète de la viande à griller, parce que la viande à griller, ça vaut 20 euros le kilo, alors que le collier de bœuf, ça en vaut 4. Alors apprenons à cuire basse température, parce que comme ça, on pourra payer 4 euros le kilo, puis on valorise. Il y a un gâchis national à ce que tout le monde mange du beefsteak, quoi. C'est idiot, parce que dans un bœuf, il n'y a pas que du beefsteak. Alors viande artificielle, c'est un peu une autre question. C'est on veut produire d'autres choses. Alors je ne l'appelle pas viande artificielle, c'était pour provoquer tout le monde. J'appelle ça des fibrés. C'est une autre, c'est la même idée de sensation. Ce qui m'a intéressé dans cette affaire, c'est que je voulais comprendre. En fait, la viande, vous savez, on parle de sa jutosité. C'est-à-dire que c'est comme du caviar, en gros. Le caviar, vous croquez, les œufs résistent, d'un coup, ça cède, plotch. Et bien, la viande, c'est pareil. Sauf que ce n'est pas du caviar en grain, c'est du caviar en tube. Et voilà l'intérêt de la viande. Alors, si c'est ça l'intérêt de la viande, faisons ces fibrés. Et le coût, c'est zéro. J'ai montré une image très rapidement. Où il y avait des fibrés avec des nouilles creuses remplies d'une gelée. N'importe qui peut le faire. Je l'ai fait au labo juste pour une photo. Je n'ai pas fait ça pour cuisiner. Hein. Ça prend 2 minutes. Alors après, qu'est-ce qu'on en fera ? Ce n'est pas ma question à moi, parce que comment la science sera-t-elle utilisée ? Ça devient une question technologique. Ce n'est plus une question scientifique.
Michel, une réponse complémentaire ?
Non, mais... Ça me choque un peu comme question, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont pour mission de nourrir la planète et d'autres qui travaillent dans un environnement. Nous faisons la cuisine, comme disait Michel Bras, pour ceux qui n'ont pas faim. C'est vrai. Il n'empêche que nous faisons un métier qui est aussi noble que ce que tu disais tout à l'heure, que si on considère qu'on est dans l'artistique, je ne suis pas sûr qu'on doive disparaître. Et notre mission est de réfléchir ensemble avec aussi des scientifiques, avec des techniciens pour essayer d'améliorer le quotidien. Mais notre mission principale, c'est avant tout, c'est vrai qu'on travaille, on essaie de travailler dans l'excellence. Tu parlais de caviar, de la résistance du caviar. Bien sûr, tout le monde ne sait pas, ne connaît pas cette résistance-là. C'est quelque chose qui est excessivement cher. C'est un produit qui est excessivement cher. La truffe, c'est pareil. Moi, la truffe, moi, ça me fait, c'est un produit que j'adore. J'aime ses arômes. Voilà, mais c'est vrai que je ne pourrais pas demain, je ne suis pas sûr qu'il faille vulgariser. Et quand je vois certains produits dans les chaînes de magasins, style foie gras et autres, qui sont des produits maltraités et qui n'ont aucun intérêt, si ce n'est le nom, je trouve ça, alors ça par exemple, ça mérite profondément. Ça mérite profondément. Et je pense qu'il vaut mieux faire manger, comme tu disais, il y a des morceaux qui seront beaucoup moins chers et qui apporteront plus de plaisir gustatif. Là, d'accord, cette démarche m'intéresse.
Pour répondre aussi, dans le fond, c'est pas parce que vous êtes pauvre que vous n'avez pas le droit de chanter. Or, le chant, c'est de la musique, c'est de l'art.
C'est moi qui l'ai cassé.
Donc, il y a toujours, même dans les gens qui crevaient de faim, il y avait de la musique. Et la musique, c'est un art. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de la musique gustative? Donc, oui, je justifie, moi, l'art culinaire, parce que c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. C'est apprendre à parler à l'esprit et non pas simplement au ventre.
Très bien.
On va prendre une ou deux dernières questions avant de... Où est-ce que j'entends ? Quoi ? Valérie ?
Oui.
C'est bon, vas-y.
Bon, ça sera Romain. Voilà, pas Valérie. Alors, Romain. Personnellement, j'avais une question de science. Alors, par rapport aux différents aliments artificiels qui sont produits, quelle est la toxicologie? Est-ce qu'il y a des risques? Parce que sur les produits chimiques, on voit toujours des phrases de sécurité, de risques pour lesquels il faut tenir compte quand on les utilise. Est-ce que lorsque le produit de synthèse est fait, est-ce qu'il y a un risque? Comment est-ce qu'on le détecte? Et à ce moment-là, est-ce que vous-même en avez déjà mangé?
Alors, pardon, il y a deux questions. La première, c'est vous parliez de viande, enfin les fibrés, les conglomèles. Alors, vous avez vu un fibré qui est fait avec des nouilles creuses dans lesquelles j'ai coulé une gelée. On est en cuisine, hein. C'est pas une question de composer. Alors d'autre part, je n'aime pas le mot produit chimique, parce qu'il y a des produits, l'eau est un produit. Est-il chimique? Elle a été traitée comme le sucre. Le sucre est-il un produit chimique? Je propose de considérer que la chimie, parce qu'il faut y voir un peu clair, la chimie est une science qui étudie les réarrangements d'atomes qui font des molécules ou autre chose. Par exemple, dans un métal, il n'y a pas d'atomes, il y a le métal, c'est une autre structure. Alors la chimie est une science qui étudie les réarrangements atomiques. Donc il n'y a pas de produit chimique. Il y a des molécules ou il y a autre chose, mais ce n'est pas des molécules chimiques. Ça ne devient chimique que quand un chimiste l'étudie. Alors après, des composés. Donc maintenant, on parle de composés. Ici, vous avez de la farine, dedans, il y a de l'amylose, de l'amylopectine. Là, vous avez de l'huile, il y a des triglycérides ou triacylglycérol. Là, vous avez de l'éthanol. Là, vous avez de l'eau. Ces composés ont été sélectionnés pour un peu leur innocuité, mais pas complètement, parce que l'éthanol qui se trouve dans le vin ou dans le pastis, lui, on sait que ça ne fait pas du bien, mais ça ne nous empêche pas d'en manger. Après, évidemment, oui, la réponse, c'est il vaut mieux faire attention. Mais avec ça aussi, il vaut mieux faire attention. Ça n'est pas un composé chimique, mais il vaut mieux faire attention, parce que sinon, on se coupe ou on se tue.
La seule différence, c'est que là, on le voit qu'il y a le danger.
Oui, mais là, tu le vois aussi. Pardon, oui, Bernard. Il y a peut-être un micro.
Voilà. Alors, je voudrais tout de même préciser une chose. Je l'ai fait devant une commission très spécialisée du ministère de l'Écologie. On va prendre un produit A, dont je vais vous donner les caractéristiques. Et je vais donner aussi les caractéristiques toxicologiques et danger d'un produit B. Le produit A tue. 50 à 60 000 personnes par an en France, minimum. Provoque des cancers à hauteur de 50 à 100 000. Ça, c'est le produit A. Je ne vous ai pas encore donné son nom. Le produit B, c'est un produit qui est moins toxique que le produit A. Pourquoi ? Parce que le produit A, si j'en bois un demi-litre pur, je tombe dans un coma irrémédiable, je meurs. Le produit B, je peux en boire un litre. Il n'est pas très bon, personne n'en boit, ça n'a aucun intérêt. Le produit B a une toxicologie qui est considérée par l'opinion publique et par les médias comme plus dangereux que le produit A. Et pourtant, il tue moins de personnes. Il devient cancérigène après des transformations compliquées, et on n'en est pas sûr, alors que le produit A est directement cancérigène. Et le produit B est en vente dans les fournisseurs de laboratoires chimiques avec un nombre d'étiquettes indiquant qu'il est dangereux, beaucoup plus que le produit A. Mais le produit A, l'opinion publique et les médias considèrent qu'il est nécessaire à la qualité de la vie dans laquelle nous sommes. Alors, quels sont, à votre avis, le nom des produits A et des produits B que je viens de décrire ? Le A, c'est l'éthanol, mais on en trouve dans le vin, on en trouve dans l'alcool, et on a une civilisation qui est basée sur la consommation d'éthanol. Mais il n'en est pas moins.
Cannabis.
C'est toxique, ça tue, ça donne des cancers. Le produit B, c'est l'hexane. Personne ne boit de l'hexane, personne ne consomme de l'hexane et personne ne met de l'hexane dans la cuisine moléculaire. Par contre, si vous oubliez de mettre de l'hexane dans votre réservoir d'essence, si vous mettez de l'eau, par exemple, ça marche moins bien que si on met de l'hexane, de l'heptane et un certain nombre de produits chimiques. Donc méfiez-vous, il n'y a pas le produit chimique dangereux et le produit naturel qui n'est pas dangereux. Je vais revenir sur, non pas la noix muscade, mais j'ai un collègue qui avait fait une thèse à un moment sur le problème de toxicologie lié au roquefort. Nous sommes en Midi-Pyrénées, l'Aveyron est pas loin. Parlons du roquefort.
Très dangereux.
Pellicinium roquefortis, qui donne la couleur verte au roquefort. C'est un magnifique micro-organisme. Sans le Pellicinium roquefortis, pas de roquefort. Et quiconque, il y a peut-être des adeptes de la cuisine moléculaire qui disent qu'il ne faut plus de roquefort. C'est génial, le roquefort, c'est merveilleux. Le roquefort, Pellicinium roquefortis, produit une toxine mortelle. Alors, il est important de savoir que pour mourir avec du roquefort, il faut en prendre régulièrement pendant 8 jours plus de 30 à 40 kilos par jour. Voilà. Alors c'est toxique, on peut tuer quelqu'un avec du roquefort. Simplement, c'est une dose. Et donc, quand vous avez une dose de roquefort raisonnable de 52 grammes ou 53 grammes dans votre assiette, vous n'êtes pas en danger. On ne vous l'a pas dit, mais moi, je vous l'ai dit, je vous l'affirme. Pourquoi vous allez survivre ? C'est le monsieur Paracels, qui est enterré à Salzbourg, dans le même cimetière où il y a les parents de Mozart, eh bien, c'est une question de dose. Nous sommes habitués à vivre depuis le néolithique supérieur où on faisait du barbecue à une certaine dose de benzopyrène. C'est sélectionné. Ceux qui n'avaient pas un bon foie, ceux qui n'avaient pas un bon P450, des enzymes de détoxification, le truc. C'est toujours une question de dose. Si vous écoutez de la musique raisonnablement, vous ne deviendrez pas sourd. Si vous mettez à fond vos baladeurs, ma femme qui est orthophoniste vous prédit qu'à 55 ans, vous serez sourd. Et c'est ce qui se passe. Actuellement, on a des jeunes qui ont été dans des concerts rock, qui ont eu les oreilles détruites dans les concerts rock, parce qu'effectivement, ils sont exposés près des baffles à 115-120 décibels, alors que la législation du travail interdit l'utilisation du bruit, la formation de bruit, au-delà de 85 décibels dans un laboratoire ou une cuisine. S'il y avait trop de bruit dans votre cuisine, l'inspecteur du travail fermerait votre restaurant. Voilà. C'est une question de dose. Alors, je crois qu'il faut arrêter de dire il y a le naturel, il y a le chimique, il y a les molécules naturelles et les molécules pas naturelles. L'éthanol, c'est une molécule qui peut être produite chimiquement et c'est aussi une molécule qui peut être produite naturellement en faisant de la fermentation. Mais in fine, c'est la même molécule. Voilà.
On a beau dire merci Bernard Meunier pour ces précisions. Il n'empêche que ce rapport à la nature et au chimique revient en permanence dans les débats et peut-être même de manière de plus en plus forte.
Il y a une catastrophe actuellement qui est en train de se produire, qui est liée à ce qu'on appelle l'industrie bancaire. Et je m'élève formellement contre l'utilisation du mot toxique par les banquiers ou les gens qui s'occupent des banquiers. On utilise un mot qui, soi-disant, vient du monde de la chimie pour dire des produits dérivés toxiques. Mmh. Voilà. Voilà. C'est tout simplement oui. parce qu'il y a des banquiers qui ne savaient plus faire leur métier et qui ont provoqué une catastrophe. Et alors, comme ils ont dit, mais non, on est banquiers, on n'est pas chimistes, on est des gens sérieux, alors ils viennent chercher, parce qu'ils ont fait des bêtises, un mot dans le vocabulaire de la toxicologie pour dire nous avions des produits dérivés toxiques. Ah, je m'élève contre ça, et en tant que chimiste au service de la science et au service de l'humanité, je considère qu'il ne faut pas nous diaboliser, parce que sinon on va finir par avoir, et je vais terminer sur une note d'humour, écrire au président de la Halle en demandant d'arrêter qu'il y ait une discrimination contre les chimistes.
Ouais, très bien. Vive la chimie.
Merci. Je ne sais pas ce que les élèves ont retenu, mais en tout cas que le mot toxique s'emploie avec précaution et le mot formidable aussi. Nous allons peut-être bientôt pouvoir nous arrêter, sauf si je... Comment ? Une petite minute. Donc nous allons... Je vais retourner à la tribune s'il n'y a plus de questions.
Bah, si on a une seconde.
Juste pour... une petite minute juste, pour conclure, voilà. Pour essayer de remettre un petit peu de forme dans cet échange.
Alors, très, très rapidement.
Donc, très rapidement.
Il y a de la science qui s'appelle la gastronomie moléculaire, qui fait de la science, ça se passe dans un laboratoire. C'est plutôt le rôle de la découverte et non pas de l'invention. Il s'agit de physico-chimie. Il y a des applications de cette science par des cuisiniers et non pas par des chimistes. Et il y en a une qui s'appelle la cuisine moléculaire. Il peut y en avoir d'autres. Il y a des êtres humains, et ces êtres humains, ils sont d'univers différents. Ils se parlent. En revanche, ils ont quelque chose entre les deux oreilles qui s'appelle un cerveau. Le summum de l'intelligence étant la bonté et la droiture, ces gens se préoccupent de leurs semblables pour donner soit de la connaissance, soit de l'émotion. Il y a beaucoup à faire pour travailler. Il y a beaucoup d'enthousiasme à avoir. Il y a des très beaux métiers, soit en cuisine, soit en science, soit en technologie, la technologie étant les gens qui sont les ingénieurs, qui font le pont entre les deux. Si je n'étais pas scientifique, je crois que je serais technologue, mais c'est parce que je ne suis pas artiste. Toi, tu es artiste, donc tu as la chance d'être artiste, et moi, j'ai la chance d'être scientifique. Mais je n'oublions pas, rappelons-nous la première slide, je criais « Vive la science !» parce que c'est mon métier, mais je crie très fort « Vive la technologie !» La technologie, c'est l'industrie, il y a beaucoup d'emplois, c'est là qu'il y a de l'emploi, donc il y a besoin de gens de talent. Et les gens de talent, ils ont du talent quand ils travaillent. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça va ?
C'est parfait, je vous remercie. Et pour conclure, nous avons le grand honneur de recevoir Monsieur le Président Martin Malvy, président du Conseil régional, qui va vous saluer et démarrer aussi officiellement cette journée d'inauguration. Monsieur Malvy, s'il vous plaît.
Non, mais l'essentiel, vous l'avez fait jusqu'à maintenant, si j'ai bien compris, puisque je crois que vous êtes là depuis 9 heures ce matin. Donc la matinée a été un peu longue, mais passionnante. Comme quoi, quand on parle gastronomie, d'abord l'eau vous vient à la bouche, et puis on se passionne rapidement. Non, moi je voudrais simplement remercier ceux qui ont pris l'initiative de cette rencontre avec les jeunes, vous remercier pour votre participation. Nous sommes très orientés, pas à titre individuel, mais au titre région, très orientés vers la qualité alimentaire. On a plusieurs actions qui se déroulent en direction notamment de la jeunesse, notamment des écoles primaires, des lycées gourmands. Mais surtout, et vous le savez, depuis des années, l'une des orientations agricoles de la région est une orientation vers les produits dits de qualité. Alors le terme, d'ailleurs, qui est utilisé est un terme un peu gênant. On parle de produits de qualité parce que ce sont des produits qui ont des labels, des certifications, une traçabilité. Ça ne veut pas dire pour autant que les autres produits ne sont pas de qualité. Bon, ça c'est un débat, mais qui rejoint celui de la sécurité alimentaire. Je pense que jamais, comme aujourd'hui, la sécurité alimentaire n'a été réalisée. On n'a jamais eu autant de contrôle sur la sécurité alimentaire qu'aujourd'hui. Mais en termes de qualité, dire ces produits-là sont de qualité, les autres non, c'est un peu gênant. On n'a pas trouvé d'autres formules. Mais on a, en Midi-Pyrénées, 107 produits agricoles ou agroalimentaires qui sont, d'une manière ou d'une autre, certifiés, authentifiés, des productions sur la base de chartes. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un produit qui est de tel terroir, de telle origine, produit dans telle et telle condition. Nous sommes, peut-être parce que nous sommes une grande région agricole, nous sommes la plus grande région agricole. Midi-Pyrénées, l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est 100 000 emplois. C'est-à-dire que c'est plus que l'aéronautique. C'est le premier employeur de la région, l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc beaucoup de produits sous signe de qualité, 107 produits sous signe de qualité, ça va du Roquefort à l'ail de Lautrec, en passant par le Chasselas de Moissac, le Rocamadour, on y ajoute les vins. Et ces produits de qualité, peu à peu, spécialité régionale, les grandes régions de petite exploitation, c'est pour ça d'ailleurs que les agriculteurs sont souvent tournés vers ces productions de qualité, peu à peu montent en pourcentage du chiffre d'affaires de l'agriculture. On est aujourd'hui à 20% du chiffre d'affaires de l'agriculture par les produits sous signe officiel de qualité. Mais on y trouve de la viande, on y trouve le veau d'Aveyron, on y trouve tous les produits. Et nous avons voulu marquer ça par des manifestations, notamment auxquelles vous participez, vous, c'est-à-dire les jeunes. Cette année encore, c'est la CISCA, la Semaine internationale de la qualité alimentaire, qui a lieu ici à Toulouse, au Parc des Expositions. On va accueillir 6000 jeunes pendant une semaine, qui est un salon de la qualité alimentaire. Et moi, je suis allé voir à Turin, j'étais à Turin la semaine dernière, au Salon du goût à Turin, qui est organisé par Slow Food. Slow Food étant un organisme associatif qui se positionne par rapport à Fast Food. Et Slow Food, d'ailleurs, est partenaire de notre salon ici, qui cherche alors, lui, à dénicher ce qu'ils appellent des sentinelles, c'est-à-dire des produits agricoles qui sont en voie de disparition ou qui ont pratiquement disparu et dont ils cherchent à assurer la survie. Bon, on a un exemple ici dans la région assez symbolique auquel l'institution régionale a participé, c'est le porc noir. Il restait, il y a 10 ans, 10-12 ans, en région, en Midi-Pyrénées, il restait une vingtaine de truies. C'était la fin d'une race. Aujourd'hui, c'est devenu un élevage auquel il y a une centaine de producteurs, plusieurs milliers. Je sais ce que c'est, puisqu'il en met sur la table. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que ces sujets sont éminemment passionnants. Alors, la cuisine moléculaire, c'est une autre histoire, mais ça, vous en êtes l'inventeur. Et c'est bien de créer ce pôle ici à Toulouse. Voilà, bah, écoutez, bonne continuation, bon appétit.
Merci Monsieur le Président, merci Hervétis, merci Michel Sarran. Et donc j'invite tous les lycéens maintenant à rejoindre le hall pour un petit goûter avant de reprendre les bus et de rejoindre vos établissements. Encore merci à tous et merci. À bientôt.
Merci. Merci beaucoup. Beau gosse.